fondateur du Café Calvé, m'a dit de présenter brièvement notre communauté. Alors, maintenant qu'il y a des moyens modernes, donc j'ai quelques feuilles qui la présentent, enfin, des feuilles d'information. Et vous irez sur notre site qui est bien fait, vous verrez un peu ce qu'on fait. On est des religieux, contemplatifs et apostoliques qui sont voués à des choses comme celles que je suis en train de faire ce soir et qui transmettent la vérité par tous les moyens, même légaux, comme disait un publiciste politique que certains d'entre vous connaissent et que je ne nomme pas pour des raisons que ceux qui le connaissent savent de quoi elle retourne. Alors, donc, je sais qu'il y a un peu un renouvellement donc, dans notre... Il y a une base de gens qui viennent plus régulièrement. Est-ce que vous avez encore une place éventuellement? Peut-être? On se tâte un peu? Oui. Donc certains viennent régulièrement, d'autres une fois sur deux ou trois, et puis il y en a qui viennent prendre un petit air. Vous n'avez pas tous forcément la foi catholique, justement, ça tombe bien cette année, le thème c'est l'apologétique. Donc je fais une précision, cette année on fait un parcours, il y a eu deux conférences générales qui présentent ce que c'est que l'apologétique. La deuxième insistant sur la première présentant ce que c'est que la révélation, si Dieu parle, est-ce que ça va, est-ce que c'est possible. Et puis la deuxième conférence, c'était s'il a parlé, comment on peut reconnaître qu'il a parlé, ce qu'on appelle la crédibilité. Et alors maintenant, les conférences suivantes, depuis le mois de décembre, la première conférence un peu plus pratique, ça a été l'évangile est-il historique, les évangiles sont-ils historiques. Et maintenant, on va avoir une progression jusqu'en avril. Ce soir, on va essayer de voir si le Christ est le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. En février, on regardera si les miracles du Christ prouvent suffisamment sa divinité. Et au mois de mars, on verra si le christianisme, la transcendance du christianisme, sa doctrine, sa morale, confirme son origine divine. Et en avril, on parlera de la résurrection comme le plus grand des miracles. Et au mois de mai, vous aurez une petite cerise sur le gâteau avec un exposé sur le sueur de Turin. Alors, vous voyez, il y a une progression. Bon, on fait que survoler des grandes choses. Alors, je préviens pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez direct. Hein, je dis les choses de façon assez claire et quelquefois avec un vocabulaire un peu imagé. Bon, c'est pour éviter que vous endormiez. Mais je ne suis pas forcément agressif, enfin, même si parfois, je parais peut-être un peu. Mais voilà, c'est pour moi aussi pour ne pas m'endormir. Donc, si vous n'avez pas la foi, ben, n'ayez pas peur. Hein, je ne veux pas vous asséner des trucs. Et surtout, je ne veux pas vous penser que l'apologétique, c'est un machin pour coincer les gens, voilà, de façon à ce qu'ils soient inéluctablement amenés à ce à quoi on souhaite les amener. Saint Augustin, un très beau passage, il dit que ceux qui n'ont jamais erré et cherché la vérité vous condamnent, il parle à des hérétiques, mais moi qui ai beaucoup travaillé pendant 14 ans pour trouver le Christ, je sais combien c'est difficile, combien ça coûte, combien il y a d'angoisse, donc je comprends vos angoisses, et voilà. Et donc j'essaye de montrer un chemin. Alors l'apologétique c'est fait par des chrétiens, vous voyez là, en principe moi je suis chrétien, j'espère avoir la foi catholique, que j'étudie un peu depuis 37 ans maintenant, en détail, et je trouve toujours des choses intéressantes, hein, donc je vous signale pour vous ne croyez pas que la vie est trop longue. Et alors, c'est fait par des chrétiens qui exposent leur doctrine en montrant qu'elle est quand même conforme à la raison. Alors c'est seulement des chrétiens qui peuvent le faire, hein, mais cependant, j'insiste beaucoup sur les aspects qui sont accessibles aux non-croyants, et même qui peuvent être un chemin pour eux dans la crédibilité, pour se dire au fond, oui, c'est raisonnable, de donner sa confiance, c'est de l'ordre moral, hein. C'est pas des démonstrations mathématiques, hein, ni même métaphysiques pour certaines d'entre elles, mais c'est une confiance, oui, il est normal de donner sa confiance au Christ et à l'Église, puisqu'il y a des signes de raison qui nous montrent que c'est par là que se trouve la vérité. Alors l'apologétique n'a pas pour but de prouver l'existence de Dieu, ça on l'a déjà fait les années passées, hein. Ben, je signale pour choquer ceux qui n'étaient pas là, hein, l'existence d'un premier principe de l'univers est une vérité qui est accessible à la raison, comme la spiritualité de l'âme. Ça, on est censé avoir déjà traité ces choses-là, et je suppose qu'elles sont admises, ou au moins reconnues comme probables, quoi. Il y a assez peu de gens qui sont absolument certains que Dieu n'existe pas, et que l'homme est un amas d'électrons, de quarks, de pions, ou machin sur la théorie des cordes qui vibrent. Mais bon, il y a quelques gars qui pensent ça, mais je ne pense pas énormément parmi vous. Mais donc, voilà, on passe sur cette base-là, voilà. Alors, si Dieu existe, s'il y a un principe de l'univers, est-ce qu'il peut nous parler? On a vu que oui. Est-ce que c'est convenable? On a vu aussi oui dans le premier cours. Et s'il parle, est-ce qu'il y a des signes pour le reconnaître? Ben oui. Sinon, il y aura une contradiction, vous voyez. Quand vous envoyez la lettre à quelqu'un, vous signez, quoi. De toute façon, soit votre nom, soit équivalemment, vous faites une blague qui reconnaît, etc., pour qu'on sache que c'est vous. Voilà, et ben, les miracles, les prophéties, c'est exactement ça. C'est la signature de Dieu au bas d'un message. Et donc, il y a des signatures. Alors c'est ça qu'on essaye de voir, quelles sont ces signatures, et certaines sont plus ou moins convaincantes. Celles que j'ai beaucoup souffert pour préparer ce cours ce soir, donc je vous remercie parce que quand on pose des questions, c'est une très bonne question, et donc là c'est moi-même qui ai fait le sujet, mais bon, j'ai pas trop mal trouvé parce que ça m'a obligé à travailler des choses qui sont un peu moins mon champ habituel de recherche. Je suis plutôt métaphysicien ou un peu spécialiste sur l'éthologie spirituelle aussi, et puis deux ou trois autres bricoles, mais bon, pour l'écriture sainte, bon, je connais un petit peu bien sûr, mais je me suis mis plus spécialement pour préparer ces cours. Et là en particulier, je me suis aperçu que la preuve par les prophéties est une preuve extrêmement impressionnante pour Pascal, Blaise Pascal, que dont certains d'entre vous, les plus âgés ou les plus studieux, ont entendu parler. Et c'est la plus convaincante des preuves. Mais cependant, en travaillant ce cours, je me suis dit, ben, ces jeunes, enfin, ou moins jeunes, enfin, ces gens dans la force de l'âge, dans la fleur de l'âge, n'est-ce pas ? C'est Aristote qui dit quelque part que la beauté arrive aux jeunes dans la fleur de l'âge comme dans l'acmé, enfin le terme grec qui désigne ça, comme une sorte de surplus, comme un éclat, vous voyez, comme une aura. Enfin, bon. Et donc vous avez ça, c'est ravissant, etc. Bravo, ça passera, rassurez-vous. Mais donc vous êtes dans ça. Alors je me suis dit, ben, est-ce qu'ils vont accrocher ? Alors je ne sais pas, vous verrez. Hein. Si vous accrochez pas, vous accrochez pas, mais je pense que certains accrocheront. Moi j'ai fini par accrocher hein, sur le truc. Hein. Mais si vous accrochez pas, il y a un chemin qui se trace, et je vous dirai vers la fin pourquoi. Il est peut-être un petit peu moins évident pour nous qu'il ne l'était pour des gens cultivés, et surtout des gens réalistes, comme était Blaise Pascal, et encore jusqu'à mes grands-parents, ou mes parents, si vous voulez, donc vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et puis quelques survivants parmi vous, qui sont quand même un peu plus au contact des humanités, de l'histoire, la vraie histoire, l'histoire chronologique, et le réel, quoi. Bon, nous, on est un peu plus déconnectés, un peu plus dans le virtuel, et un peu plus dans le superficiel, donc des choses énormes, on ne les voit plus. C'est pour ça, peut-être, que l'apologétique est difficile. Et j'avoue que j'ai un peu lu l'accordaire là pour préparer mon cours. Et j'aimerais assez bien reprêcher ce que je vous ai fait là dans la chaire de Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si ça viendra. Mais je ne sais pas si ça marchera parce que du temps de l'accordaire, vous voyez, l'auditoire était quand même des gens qui est bon. Alors là, pour ça marche, il faudra trouver un moyen pour que ça marche. Alors voilà, la preuve par les prophéties. Est-ce que le Christ est le Messie annoncé par l'Ancien Testament ? Alors, je vous ai mis un résumé. Hein, vous voyez qu'on ne refuse pas les moyens modernes. Je ne suis pas très fort en traitement de texte. Enfin, vous avez un petit papier quand même qui est assez bien fait. Et alors, il y a d'abord une partie spéculative pour dire de quoi on va parler, la prophétie. Ensuite, on verra que il y a 2000 ans d'histoire du monde, peut-être plus, enfin plus d'une certaine façon, dans un peuple particulier qui attend de quelqu'un. Alors, on va regarder cette attente. Et puis ensuite, depuis 2000 ans, il y a quelqu'un, Jésus de Nazareth, qui se présente pour lui-même, qui s'est présenté, et pour ses disciples, comme ayant accompli cette attente. Et ça, c'est une preuve, parce qu'on ne peut pas se prévoir soi-même à 2000 ans d'avance, c'est une preuve qu'il était dans le vrai. Et à la fin, j'ai mis ça en dernier, la doctrine catholique. Donc vous irez vérifier que ce que je vous ai raconté, ce n'est pas des carambistouilles, ce n'est pas des inventions. Jésus a dit ça, les apôtres ont dit ça, le catéchisme de l'Église catholique dit ça, et Vatican I dit ça aussi. Bon. Donc, l'Église catholique nous confirme. Hein, donc, si vous avez la foi, ce que je vous dis, si vous voulez, est un approfondissement, un éclairage, et ça va vous montrer peut-être une certaine cohérence qui nous échappe souvent entre la première alliance et la deuxième. La première étant quand même extrêmement importante. Et elle enrichit la deuxième, si justement on sait bien lire l'une et l'autre. Alors, bon, on va donc parler de la prophétie. Alors, qu'est-ce que c'est que la prophétie ? Donc, notion, valeur probative, valeur pédagogique. La prophétie au sens un peu plus large, voyez, en fait c'est un don que Dieu fait à des hommes pour transmettre la révélation. Au premier cours on a parlé de la révélation, au deuxième cours on a dit qu'elle avait des signes de crédibilité, que les prophètes ou les thaumaturges faisaient des miracles pour prouver la vérité de ce qu'ils disaient. D'une façon générale, ceux qui sont en train d'écrire les livres saints, les apôtres, les évangélistes, où le prophète qui est en train de prophétiser, eh bien, il a le charisme de prophétie. Bon. Et qui lui permet de découvrir des choses que son intelligence n'aurait pas connues autrement. Alors ça, c'est le sens le plus large, voilà, le sens de mot prophétie. Mais nous, on va l'utiliser dans un sens plus particulier, un sens plus restreint, plus précis, c'est la prophétie en tant qu'elle est un signe de crédibilité. C'est-à-dire, c'est la connaissance par un homme de quelque chose d'imprévisible, qui ne peut pas savoir par son intelligence naturelle, mais qui est dans le futur, vous voyez. Donc j'ai bien précisé, j'ai mis entre parenthèses avec un petit signe qui signifie différent. Enfin, je n'ai pas trouvé tout à fait le signe qui me satisfaisait, mais enfin vous devinerez. Oui, la prophétie c'est une prédiction infaillible. Alors c'est pour la distinguer, si vous voulez, des gars qui jouent bien au tiercé et qui gagnent habituellement. Quoi. C'est une conjoncture humaine. Il y a des gars qui sont doués, qui ont du nez, avec la tête du jockey, le poids du cheval qu'il a fait avant et tout, ils font des conjonctures. Ce n'est pas des prophéties, hein. Même s'ils gagnent souvent. Et puis si ils se mettent d'accord avec le diable pour avoir des tuyaux, sur ça ou sur d'autres trucs, le diable, enfin, ou des esprits mauvais, lui donneront des tuyaux peut-être, avec le contrepartie à payer, qui sont un peu plus, je dis pas qu'ils sont plus fiables, parce que le diable pourra compter des blagues, mais enfin, il est assez intelligent, il a plus de données, il peut aller voir ailleurs comment ça se passe, et donc il peut y avoir des divinations diaboliques, qui sont un péché énorme, d'ailleurs je vous signale, n'en faites pas. Hein. Je vous dis ça au passage, parce que si vous en faites pour vous amuser, après vous n'allez plus vous amuser du tout. Hein. Une fois qu'on est entre les pattes du démon, pour en sortir, bonjour les dégâts. Hein. Mais enfin bon, donc il fait des divinations. Alors, mais ça, c'est bon, c'est pas infaillible. Hein. Le diable ne peut pas en particulier lire dans le cœur des gens. Voilà. Alors, bon, c'est une prédiction infaillible et sur un futur non nécessaire. Si je vous dis le soleil va se lever demain, ah oui, ah ouais, c'est pas une prédiction très très finaude. Hein. Ou il se lèvera encore pendant 7 jours, ben, j'ai encore des chances d'être dans le monde. Hein. À moins que la parousie arrive d'ici là, ou à moins qu'il y ait un météorite qu'on a mal calculé, enfin, 7 jours on l'aurait à peu près calculé peut-être, bon. Mais voyez, donc, si c'est nécessaire, ça marche pas. C'est un futur qui n'est pas nécessaire. Et il faut qu'il soit strictement contingent. Contingent, ça veut dire qu'il peut arriver ou pas. Hein, si vous dites que vous avez un gars qui est magnifique, qui a une famille où les gars meurent tous à 105 ans, hein, qui vit une vie complètement saine, qui fait son footing jusqu'à 75 ans, après, bon, il diminue un petit peu, mais il faut autre chose, et bon, il... Oui, ah ben, ce gars-là, il va vivre longtemps. Bah, attendez, d'accord, vous n'avez pas un grand mérite à faire, c'est pas vraiment une prophétie. Hein. Bon, donc il ne s'agit pas de ces trucs-là. Hein. Des Madame Soleil ou d'autres qui ont un peu du nez, ils vous disent un truc équivoque, il y a une chance sur deux que ça tombe pile. Et comme les gens sont poires, ils se débrouillent pour trouver la partie équivoque où ça va être. Ah oui, elle m'avait dit ça. Bon, bon ça, c'est pas des prophéties. Alors, c'est quelque chose qui ne peut pas être prévu avec certitude. Et vous voyez, ce qui est important dans la prophétie, c'est que la prophétie fait souvent intervenir des libertés humaines. Oui. Prévoir, si vous voulez, qu'un type assez calme va demain faire l'acte gratuit de Gide en poussant un gars par la porte de. Enfin, maintenant il n'y en a plus, il y avait une porte dans le truc de Gide, on pouvait pousser les gars à chaque compartiment, enfin, je sais pas, maintenant c'est bien bloqué. Enfin, va faire un meurtre gratuit. Bah, attendez, si vous prédisez ça et que ça a lieu, et c'est que vous aurez eu un don, quoi, hein, parce que c'est libre. Surtout si c'est de soi-disant un peu gratuit. Donc plus c'est libre, plus c'est imprévisible. Et vous voyez, si vous avez une accumulation de liberté humaine, bon, ça devient de plus en plus difficile à prévoir. Et en plus, il s'agit de la liberté divine. Vous voyez, si vous dites, eh ben, dans 300 ans, il y a un gars qui va venir, vous donner même son pays, d'un petit peuple où il y a 5-6 millions de personnes, hein, et il viendra de tel endroit dans ce pays, et il fera des miracles. Les miracles, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Les vrais miracles. Hein. On en parlera en février. Bon. Donc, alors là, vous êtes bon. Hein. Si vous faites ça, si vous avez vraiment une prophétie type. Hein. Parce que ça dépend vraiment d'un futur libre et de la liberté divine. Oui. Alors, voilà un peu ce que c'est qu'une prophétie. Alors, je précise qu'il y a différentes nuances et de perfections dans la prophétie. Il y a des prophètes plus ou moins performants. Hein. Le prophète, disons, le plus performant, mais c'est très rare, c'est celui qui prévoit la date de la réalisation de la chose. Comme semble-t-il la prophétie de Daniel au chapitre 9, dont on va dire un mot. Mais c'est très rare, la date. En gros, c'est l'événement, et encore, on va voir qu'il y a une certaine obscurité. Hein. Et le prophète peut être quelqu'un qui prédit, vous voyez, ce qui va se passer, sans être tout à fait certain que ça lui a été dit par Dieu. Par exemple, Abraham, quand on lui a demandé d'immoler son fils, il était certain que ça venait de Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Par contre, Joseph, quand il a eu les songes où il voyait des manipules, Joseph, celui que ses frères ont vendu et qui a fini en Égypte, là. Vous avez entendu, certains d'entre vous ont entendu parler de Joseph, ceux qui avaient la miche de pain quand ils étaient petits. Joseph, c'est un des 12 fils de Jacob. C'est un des 12 fils de Jacob, et bon, ils étaient jaloux, les frères. Ils étaient jaloux en particulier parce qu'il avait des rêves invraisemblables où il voyait 12 manipules de blé. Hein, qui s'inclinait devant lui et qui était le gros manipule debout. Alors, les autres frères étaient furieux, mais ils ne comprenaient rien à ce qu'il disait, quoi. Il n'était pas même tout à fait sûr que ça venait de Dieu, il l'a compris après. Donc, vous voyez, dans la prophétie, il y a différents degrés. Le prophète est mu par Dieu, il dit des trucs, quelquefois il fait des trucs, il fait un trou dans la dans sa maison où il coupe des cheveux en l'air, il met de l'eau à chauffer. Et puis après, Dieu lui révèle la signification ou à un autre prophète. Oui. Donc, il est poussé à faire quelque chose par Dieu, et ça a une signification qui éventuellement va être dite par un autre prophète. Mais il y a différents degrés dans ce que Dieu peut dévoiler. Et Dieu dévoile des choses que la personne ne peut pas connaître, ou fait faire des choses qu'elle ne comprend pas. Par exemple, la fameuse prophétie de Balaam, hein, c'est un prophète qui n'est pas juif, et qu'on demande de prophétiser contre Israël, et il prophétise en faveur d'Israël, sans comprendre d'ailleurs trop ce qu'il est en train de dire. Bon. Mais ça fait rien, c'est comme une prophétie, ça, on le voit après quand c'est réalisé. Et puis il y a des cas où il y a même une incompréhension complète du sens des choses, comme Caïphe, vous voyez, qui d'après Saint Jean prophétisait, il faut qu'un homme meure pour tout le peuple. C'est que Jésus va mourir pour tout le peuple juif et pour le monde entier. Et Caïphe, qui était grand prêtre, a en quelque sorte fait une prophétie sans le savoir. Voilà. Donc vous voyez, il y a une grande variété dans la prophétie, c'est quelque chose d'assez particulier, et je ne vous invite pas trop à souhaiter d'être prophète. Hein. Parce qu'habituellement, ils racontent des choses assez, assez difficiles à admettre. Et sur le coup, c'est très extraordinaire. Hein. Les prophètes étaient des gens qui étaient en dehors des hiérarchies habituelles. Et donc, ils étaient assez mal vus, souvent par les prêtres et par les rois. Donc, ils terminaient souvent assassinés ou enfin, dans des morts assez douloureuses. Alors, est-ce que la prophétie, si une prophétie a lieu, est-ce que ça peut prouver quelque chose ? Parce que là, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'on va voir les prophéties de l'Ancien Testament comme preuve du messianisme de Jésus de Nazareth. Alors, oui, ça peut prouver quelque chose. Il faut établir d'abord qu'il y a eu une prédiction, ensuite qu'un événement s'est réalisé, et troisièmement, que ça colle. Qu'en gros, l'événement réalisé avait été le même que celui qui était prédit. Mais, par exemple, là, on a des prophéties dans Isaïe, on sait qu'elles ont été prédites, parce qu'elles étaient dans une cave où elles sont restées, enfin une grotte, jusqu'à 1947, où on les a sortis de la grotte de Qumran. On a eu tout le livre d'Isaïe. On sait que ce livre est forcément antérieur en 66, après Jésus-Christ, et même d'après l'Écriture, bien avant. Bon. Donc on sait qu'il y a eu un événement qui a été décrit. Alors maintenant, reste à savoir si ça a été réalisé. Oui. Donc, quelque chose est prédit, quelque chose est réalisé, et est-ce que ça colle ? Oui. Alors, s'il y a conformité entre les deux, il faut faire attention que la prophétie, on va le préciser tout de suite, c'est pas de l'histoire à l'envers, c'est-à-dire c'est pas le prophète ne décrit pas les choses comme la gare des Michards, enfin, je ne sais pas qui sont toute la littérature, mais les bons ouvrages d'histoire qu'on avait avec deux pages, le roi Louis IX, ça a fait ci, fait ça, le résumé à prendre par cœur, enfin, c'était tout à fait avant la guerre du Golfe, c'est ce que je vous dis, mais il y a encore des écoles, on apprend comme ça, et bon, c'est décrit assez précisément, quoique l'historien a sélectionné les événements, hein. On l'a vu dans l'histoire, il y a aussi une part là, mais bon, c'est pas ça la prophétie, hein. Il annonce quelque chose, on sait que quelque chose va arriver, on voit en gros dans quelle direction ça va, mais on comprend une fois que c'est réalisé. Saint Pascal le dit explicitement, la prophétie, on la comprend parfaitement quand elle est réalisée. Mais à ce moment-là, elle est probante. Pourquoi elle est probante ? Ben parce que seul Dieu est en dehors du temps. Et seul Dieu peut connaître ce qu'on appelle les futurs contingents. Si vous prédisez quelque chose d'absolument invraisemblable, dépendant de la liberté d'une personne qui est dans ce café caté ici, d'ici le prochain café caté et que ça a lieu, ben c'est que c'est Dieu qui vous l'a révélé. Et parce que c'est vraiment quelque chose de libre. Donc la liberté, il faut faire attention que personne ne rentre dans la liberté. Même le diable ne sait pas ce qu'il y a dans vos pensées, et la liberté, ben, elle jaillit, si vous voulez. Donc seul Dieu qui est en dehors du temps, a sous les yeux, si j'ose dire, au contact de sa durée, il a toutes les autres durées. Hein, celle du cosmos, celle des esprits, celle des anges. Hein, la durée, c'est le mouvement, si vous voulez, des réalités. Quoi. Soit matériel, alors c'est le temps, soit spirituel, alors c'est un temps un peu particulier. Hein, qui est plus proche de l'éternité, mais, etc. C'est les durées des êtres, c'est ça. Et Dieu, il est au contact de toutes les durées. Donc si quelque chose est annoncé 700 ans avant Jésus-Christ et se réalise avec Jésus-Christ et l'Église, eh bien, il n'y a que Dieu qui a pu l'annoncer au prophète. Faites attention, ça c'est extrêmement fort. Hein. Et c'est vrai, Pascal dit que c'est un miracle subsistant. Parce qu'une fois que la prophétie est réalisée, ben, elle l'est toujours. Hein. Enfin, on va revenir parce que c'est largement plus fort. Bon. Voilà. Alors, donc ça a une valeur probante, vous voyez. Mais il faut savoir que la prophétie, c'est pas quelque chose d'ambigu, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, si vous voulez, mais c'est pas ambigu comme celle de Madame Soleil, ou de, je sais pas, quelle est la voyante à la mode actuellement, celle que vous allez consulter quand vous n'avez pas le moral, enfin, ou votre patron, ou votre DRH, et qui va vous raconter des trucs au pif, mais ça va tomber, parce que, etc., non, attendez, elle va dire des trucs ambigus qui ont toujours une chance d'être vrais. ou qui vous paraîtront vraies parce que vous aurez besoin de vous appuyer sur un truc. Bon, ça c'est pas ça. La prophétie n'est pas ambiguë dans ce sens-là, mais elle reste mystérieuse, hein, parce qu'il y a un genre littéraire prophétique, oui. Un genre apocalyptique, et souvent dans le genre apocalyptique, le prophète ne distingue pas les moments de la durée. Donc il annonce des choses concernant la première venue du Messie, celle que nous croyons nous être en Jésus-Christ, mais qui en fait concerne l'expansion de l'Église ou concerne le retour de gloire. Mais c'est annoncé dans un style prophétique avec des formules quelquefois stéréotypées. Vous voyez, quand on dit « Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel », ben récemment notre prof d'écriture simple nous fait remarquer que en Palestine il n'y a pas tellement de lait, quoi. Et le lait coulait pas. Mais c'est un langage typé, tu vois, comme vous, je sais pas, quand vous êtes dans vos informatiques, vos trucs, vous dites un mot, ben votre confrère il a tout de suite compris, vous dites le numéro du logiciel ou le Microsoft je sais pas quoi, ou Outlook ou je sais pas quoi, type il capte tout de suite, hein. Enfin moi un peu plus difficilement, mais vous, voilà. Et ben à l'époque, si on disait le lait et le miel, ça veut dire les temps messianiques. Il y a des choses, on peut le prouver, ça. Vous voyez, c'est aussi rigoureux, si vous voulez, que les études archéologiques, on voit un morceau de truc et puis on déduit à 10 ans près avec la forme de l'écriture ou la forme de l'épée, de quelle époque ça date. Et ça, personne ne met ça en doute. Et bien, quand on vous dit ces formules-là, les formules des prophètes désignent l'époque messianique avec plus ou moins de précision. Et je prends un exemple ici dans une prophétie du Christ lui-même. Alors lui, il distinguait les plans, mais les apôtres qui ont pris les notes ne distinguaient pas. Le Christ a dit, il va se passer des trucs horribles. Qu'on n'a jamais vu, etc. Il va y avoir une armée, tout ça, et on va être encerclé, bidule et tout, et ça sera le pire de tout, les femmes vont manger les enfants, etc. C'est ce qui va se passer, en fait, en partie au siège de Jérusalem. Alors quand ils ont vu, c'était quand même assez précis, hein. Il y avait à la fois le rite de Jérusalem et à la fois la fin des temps. Et les apôtres, les synoptiques et saint Jean, ils ont écrit, hein, surtout les synoptiques, hein, ils ont écrit, bon, comme ils pouvaient, quoi. Ils ont pris les notes, ils étaient assistés, ce qu'ils ont dit est vrai. Mais dans le texte, on a du mal à distinguer les deux choses. Et la preuve que ça marche, c'est qu'au moment où Titus ou Vespasien, je ne sais plus, est arrivé, hein, a commencé à encercler, dans la grande guerre judaïque, hein, de 66, 70, 72, hein, et les Romains les ont encerclés parce que bon, ils s'étaient révoltés, il y avait vraiment une bagarre terrible, et là, on a mis le paquet, il y avait de nombreuses légions très aguerries qui sont venues, et ils ont commencé à faire la circonvallation, et les chrétiens étaient déjà tous partis. Tous partis au-delà du Jourdain, dans des territoires qui n'étaient pas soumis à l'Imperium Romanum. Et heureusement, c'est comme ça que ça a permis à la Sainte Vierge de s'en sortir, parce que les descendants de David étaient poursuivis par les héritiers du Basileus, de l'Empereur. Bon, donc c'était assez clair, parce qu'ils sont partis. Et en vitesse, hein. Mais par contre, ça restait obscur, parce qu'il reste toujours l'obscurité sur les modalités des derniers temps. Il se passera des trucs assez graves, si vous voulez, des catastrophes, qui sont reprises dans l'Apocalypse, on ne sait pas trop à quel moment, comment ni quoi, qui prélude droit à la fin des temps, et dont la ruine de Jérusalem est, si vous voulez, le signe maximum, si vous voulez, paradigmatique, enfin au maximum. Donc vous voyez, la prophétie, c'est quand même pas rien. Ça a permis de sauver les vies, là, des chrétiens, mais en même temps, ça ne dit pas tout. Tous les détails n'étaient pas consignés. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, donc, pour le christianisme, alors là, ça peut-être, ça vaudra la peine de faire une enquête approfondie, c'est qu'il semble bien que le catholicisme, enfin, le christianisme, disons, est la seule religion qui a ses titres de fondation dans une autre religion. Enfin, j'ai mis autre entre guillemets, hein, pour moi, parce que, bon, actuellement, les juifs croyants, c'est quand même la seule religion non chrétienne qui a des livres révélés, vraiment révélés par Dieu. Donc elle a une position particulière par rapport à la vérité. Mais enfin, il n'admet pas le Nouveau Testament, ce qui est bien dommage. Bon. Mais c'est la seule religion, vous voyez, qui a, c'est ce que dit saint Augustin, les juifs portent le codex, le livre, pour que les chrétiens croient. Et c'est ce que dit aussi saint Paul. Ils lisent tous les jours dans la synagogue des prophéties qui démontrent qu'ils ont tort. Enfin, saint Paul était assez radical parce que il connaissait, il en sortait, et ils ont un voile sur les yeux qui fait qu'ils ne comprennent pas que c'est réalisé. Mais le fait que les prophéties existent, on en est certain, puisqu'ils ont même compté sur chaque ligne de la Torah, on a compté les iodes, enfin les plus petites lettres, et il est absolument impossible de les décaler, donc on est certain que le texte d'Isaïe de votre Bible est le même que celui qu'on a trouvé à Qumran, et le même donc celui de... Des juifs hellénistiques d'Alexandrie et ensuite des juifs de la Massorbe. Donc, c'est certain qu'il y a eu ces prophéties. Donc on a une religion qui a ses titres de fondation dans une autre religion, entre guillemets. Ce qui est quand même assez impressionnant. Vittorio Messoli, je vous ai signalé un livre de lui, c'est un journaliste, non, là, on hésite à employer ce mot, qui peut être laudatif, mais qui parfois est un peu minabiliste, mais bon, d'un homme cultivé qui se trouve être aussi journaliste et publiciste. Et qui s'est converti en étudiant l'évangile. Il a écrit un livre qui s'appelle, bon, donc je vous donne la bibliographie. Il a mis 10 ans à faire ce livre, à la fin il était converti, hein, sur les traces de Jésus, quelque chose comme ça. Et puis un deuxième livre qui s'appelle La vérité, un nom et un visage. Et donc, lui, il insiste beaucoup là-dessus, je crois, à juste titre, vous voyez. Les titres de fondation du christianisme sont dans la Torah juive. Sont démontrés, sont écrits et gardés par des gens qui n'avaient pas la fondation de l'Église catholique. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, est-ce que ça a une valeur pédagogique? Alors là, le petit paragraphe d'après, je l'ai rajouté parce que je pense que je ne vais pas trouver directement dans les théologiens les manuels les plus répandus, enfin répandus dans nos bibliothèques à nous. Hein. Voilà. Mais j'ai voulu réfléchir un peu pourquoi est-ce que c'est bien qu'il y ait des prophéties? Parce que Dieu, en général, est un assez bon prof. Hein. Mais c'est ça qu'on a du mal, nous, à admettre, parce que je crois qu'on n'a pas une vraie idée de l'homme. Enfin, je le répéterai en terminant, mais je crois que c'est la grosse difficulté de l'apostolat aujourd'hui. C'est qu'on a une idée de l'homme très diminuée, et on ne voit pas l'homme comme un animal progressif, historique et intelligent, et politique. Pas assez, plus assez. On fait beaucoup d'erreurs d'anachronisme, et donc on fait des leçons à Dieu. Pourquoi t'as pas tout de suite fait machin bidule qu'on a trouvé en 1552? Pourquoi t'as pas tout de suite promulgué ça en moins 2000 avant Jésus-Christ, quoi? C'est nul, ça. C'est pas la pédagogie divine, c'est pas l'homme. Alors, il y a une valeur pédagogique, et en fait, cette valeur pédagogique, c'est que il y a un vrai Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, qui s'est révélé dans le Christ, et en fait, on s'aperçoit que ce vrai Dieu, déjà, c'est ça qui est extraordinaire, les juifs l'avaient bien compris, ce vrai Dieu est différent des autres. Aujourd'hui, il y a une tendance un peu relativiste, on met un peu toutes les conceptions de Dieu sur le même plan, et c'est très dommage. Parce que la conception du Dieu monothéiste, si vous voulez, chrétien spécialement, enfin, il n'y en a qu'un seul, mais disons, tel qu'il est connu par les monothéistes et les chrétiens, c'est un Dieu personnel et distinct du monde, et qui est en dehors de la durée du monde. Alors que quand vous regardez les mythologies, ou les grandes cosmologies babyloniennes, assyriennes, etc., et même les grandes mythologies qui ont fondé un peu en un sens notre civilisation, grecque et latine, etc., il y a une confusion complète, on a l'impression que les dieux sont aussi anciens que le monde, ou apparaissent à un moment donné, parce qu'il y a un bout de terrain qui tombe, et qui est dans la mer, et qui fait ci, un truc, des trucs absolument incroyables. Pensez que des gens aussi intelligents que les grecs ont pu écrire des trucs aussi farfelus que la mythologie, alors ça c'est un grand truc d'admiration. Mais je suis sûr qu'Aristote, il n'en croyait pas un mot, enfin bon. Mais il était discret pour ne pas avoir d'ennui, comme on a vu certains de ses confrères un peu plus anciens. Mais bon, voilà, alors c'est assez curieux parce qu'on a une espèce de durée, vous voyez. Il y a le monde, il y a la matière, il y a des esprits. Non, il y a des esprits, il y a pour les crétins modernes qu'il n'y a pas d'esprit. Hein. Il y a plein d'esprits, bon, et, etc. Et puis il y a les dieux, et puis tout ça, il y a des démiurges qui travaillent un peu là-dedans, il y a des généalogies, mais tout ça est complètement embrouillé. C'est ce que le vrai Dieu est en dehors du temps. Et il le montre. Il le montre parce qu'il donne un sens au temps. Mais la Bible, c'est le seul bouquin, c'est un bon bouquin, hein. Je vous conseille de lire, enfin, avec des notes catholiques, SVP. Mais il y en a aussi des bonnes. Hein. C'est un bon bouquin, et vous le lisez, bon, avec l'Église, elle nous aide à le lire, c'est comme un bouquin compliqué. Hein. Mais je n'ai pas obligé d'étudier l'hébreu, l'araméen, mais même malgré ça, même sans ça, c'est quand même compliqué. Mais c'est un bon bouquin, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un sens dans le livre. Voyez. Ça commence par, au début, Dieu fait le ciel et la terre, et ça se termine par, viens Seigneur Jésus. Hein. Il y a un sens de l'histoire. Qui énervait Simone Veil, hein, la philosophe normalienne là, qui a fait toutes sortes de choses et qui est morte en 1943. Elle était assez antisémite, ce qui est curieuse pour une juive, mais enfin, c'est comme ça, il y en a peut-être plus qu'on ne le pense, mais enfin, elle l'était assez, et en particulier parce qu'elle était grecque à fond les manettes, trop à mon avis, et pour les Grecs, c'est l'univers cyclique, quoi. Elle disait, ah, allez, je ne peux pas pardonner aux Hébreux, disait-elle, elle, Simone Veil, hein, qui ont introduit dans le monde la notion de progrès. Bah, je trouve que ce n'est pas ce qu'ils ont fait de plus mal, hein. Je trouve que c'est assez pour le progrès. Mais le progrès, c'est une invention du christianisme. C'est pour ça que vous avez du mal à me comprendre, en fait. Sauf que j'essaie de vous réveiller un peu. Mais parce qu'on a du mal, parce qu'on en est des fils, nous, du progrès. On en est des fils de l'idée que l'homme est libre, et qu'il y a un progrès, que ça bouge, et qu'il y a des choses au moins dans certains domaines. Voilà. C'est-à-dire que pour les anciens, c'est l'éternel retour, hein, Zarathustra, machin, etc. C'est cyclique. Hein. Et même il y a des gens qui vous écrivent très sérieusement, et qui sont pourtant les fondateurs de la logique moderne, hein, la vraie logique, enfin, qui faisaient très sérieusement, qui pensaient que ce que nous vivons là en un moment, et eh bien dans 153, 42 632 éons, tac, on se retrouvera tous flash les mêmes. Quoi. Les mecs intelligents qui pensent ça, qu'ils l'ont écrit. Car Aristote dit tout ce qu'on dit, il n'est pas nécessaire qu'on le pense. Je pense qu'ils ne pensaient pas quand même. Vous voyez, exactement le même flash qui revient. Donc c'est cyclique, si vous voulez, habituellement c'est cyclique. C'est-à-dire que la vraie religion n'est elle est dynamique, si vous voulez. Dieu n'a pas besoin du monde. S'il fait le monde, il lui donne un sens qui est de rentrer dans l'amour de Dieu. Et ça marche. C'est pas, si vous voulez, que la création est un plus qui est en fait dans, qui est une erreur, quoi. Dans l'Extrême-Orient, c'est un peu ça, on est un peu une erreur, quoi. Nous sommes une erreur de Dieu. Il y a des formes de moderne révolte qui viennent de cette idée-là. Nous sommes une erreur de Dieu. Bon. Alors, un truc, pourquoi il l'a fait? Non, non. Il a voulu faire rentrer les gens, donc. Et pour ça, il a fait un temps dans lequel lui ne se trouve pas. Il y a un temps différent qui est le temps du monde. Ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, Dieu fait le ciel et la terre. Bon, tac, il y a des choses matérielles qui commencent à exister, qui ensuite se développent avec des savoirs merveilleuses que Dieu, dans sa sagesse, a conçues, mais qui après se développent, voilà. Ils n'ont pas besoin que Dieu intervienne toutes les 5 minutes. Voilà, et puis top, il y a la durée du cosmos matériel, et puis la durée des hommes. Dieu crée Adam et Ève, et il crée les esprits, donc sont symbolisés sans doute dans la Genèse par la lumière et les ténèbres. Bon, il crée des anges, etc. Certains se révoltent, d'autres ne se révoltent pas, et puis il crée des êtres qui sont à la fois des esprits et de la matière, et c'est nous. Voilà. Et tout ça, ça a un sens, vous voyez. Et bien justement, la prophétie montre que Dieu est le maître de l'histoire. À la différence des cosmogonies anciennes où tout est mélangé, la durée de Dieu est transcendante par rapport à celle des hommes et du monde. Ce qui fait que Dieu fait des prophéties et donc il dit, attendez, je vais faire un truc. Et quand le truc arrive, c'est encore mieux que ce qu'il avait dit, que ce qu'on avait compris qu'il avait dit. Exactement. Oui. Pour montrer qu'en fait, bon, il va bien se passer quelque chose, et bien il est arrivé quelque chose au moment à peu près prévu, on va le voir, hein, et à peu près ce qu'on attendait, mais c'était beaucoup mieux. Oui. Pour montrer que justement, il n'est pas dépendant, si vous voulez, c'est pas comme... Je ne sais pas, le micro-ondes, vous mettez, si vous mettez une minute, ça fait ça, si vous mettez trop, vous brûlez quand vous touchez le truc qui sort, etc. Vous voyez, c'est pas un truc comme ça, il met le monde à la cocotte minute, et puis quand ça siffle, ça va être bon, quoi. Hein? Et on est cuit, on sort, et ouais, c'est pas un truc, et c'est difficile, parce qu'on est très très techno, machin, donc on se dit, tiens, il a dû... Non, c'est pas comme ça, c'est qu'il y a une durée des hommes, et Dieu réalise toujours au-delà de la durée, hein? Et en plus, une réalisation, mais Dieu est un très grand artiste, hein? Je sais pas, j'ai lu encore récemment, je me souviens plus où, que en fait Dieu est quelqu'un qui dit un poème avec le monde. Bien sûr, le monde est un poème fait par Dieu, mais aussi avec les êtres humains, quoi. C'est un peu ce qu'a vu aussi Dante, hein, la Divine Comédie. Bon, Dieu fait quelque chose de magnifique avec des humains, quoi. Et c'est bien joué, c'est bien fait, quoi. C'est bien mis en scène, disons. C'est plus ou moins bien joué. Enfin, c'est bien joué par ceux qui se sauvent, moins bien par ceux qui se damnent. Mais n'empêche que c'est quand même assez bien mis en scène. Et alors Dieu fait ça, vous voyez. Et alors, il a pas étudié les règles de l'art classique, alors hein, il se trouve que ça correspond à mon avis. Hein. Enfin, c'est mon avis à moi, celui du père Boutberger. Donc ça vaut peut-être pas tripette, mais je vous le sors. Je crois que, vous voyez, en fait, le Christ, c'est le dénouement d'une tragédie antique ou d'une comédie, ou d'une grande truc classique, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon dénouement, enfin, à mon avis. Hein. C'est la prof de français, vous trouvez que j'ai tout faux, mais peut-être pas quand même. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs. Bon, alors il y a des règles apparemment très contraignantes qui en fait mettent le génie, quand c'est un vrai génie, hein, dans un état de liberté qu'on ne retrouve pas en dehors de lui. Hein. Enfin, bon, on a beau dire, c'est comme des gars musclés, hein, tous ces gars-là. Bon. Et alors, et le gars, il écrit, quand vous lisez, vous dites, mais c'est évident. Mais vous dites, ah ben, j'aurais pu faire pareil. On a essayé un peu, vous allez voir. Ça va être nul de chez nul. Hein. Mais il faut en suer comme des bœufs pour faire des trucs comme Racine ou Baudelaire. Bon. Et alors, et encore, il n'y en a qu'un par siècle qui arrive. Mais alors, le gars, donc, il travaille. Il sort son truc, et puis alors, tout se met en place, etc. etc. Puis, paf, vous avez le dénouement. Vous dites, ah ben merde. Ça, vous dites pas ça parce que c'était la comédie française, avec votre cravate à l'époque, quand moi j'y assistais autrefois, il y a longtemps. Et on disait peut-être pas ça. Mais on disait, on avait un double sentiment, vous voyez. C'est surprenant, et c'est nécessaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Ça, on dit, ah ben voilà, ça ne peut pas être autrement. Ça pouvait être autrement, il pouvait mourir à l'acte 3, etc. Bon. Mais vous voyez, nous, comme c'est bien fait, c'est surprenant et nécessaire. Et je crois que le Christ, il a surpris tout le monde, et en même temps, tac, ça colle. Ça colle sur la prédiction du Messie roi, ça colle sur le serviteur souffrant et humilié, et ça colle sur l'être transcendant dit du Fils d'homme. Bon. Et il fallait le faire, hein, parce que c'était pas quand même. C'est un truc, un tenseur complexe, hein, pour les physiciens. Enfin, une équation avec beaucoup d'inconnus et beaucoup, voilà. Et bon, et c'est magnifique, quoi. Parce qu'en fait, il a trouvé une solution qui est surprenante et nécessaire, entre guillemets. Entre guillemets. C'est-à-dire que vous voyez, c'est tellement beau, ce qui est beau, bah, le beau, enfin, dans le beau, il y a une sorte de nécessité, enfin, on se dit. on se tait, quoi. Dans le beau, on ne dit rien. Devant le beau, ce qui est complètement beau, bah, on est complètement saisi. Et je crois que c'est ça ce que fait le Christ. Voilà. Alors voilà. Donc, le Saint-Augustin a une très belle phrase. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien devient clair dans le Nouveau. Hein, c'est que quand on lit tous les livres de l'Ancien Testament qui étaient constitués pendant des siècles, il y a des choses magnifiques, très impressionnantes, très brutales. Ça secoue l'Ancien Testament, c'est pas trop. Et les passages ne sont pas pour les âmes sensibles. Hein. C'est assez. Bon, il y a des trucs très bruts, très brutaux, oui, c'est vrai. Il y a des choses magnifiques. En tout cas, il y a une poésie rutilante, en particulier dans les psaumes, les livres de la sagesse, etc. Et voilà. Mais là-dedans, on sent frémir aussi l'Évangile. Mais c'est caché. C'est caché parce que certains rabbins ne l'ont pas vu. On va le voir. C'est caché quand vous entendez certains passages des livres de la sagesse, ben, vous avez l'impression déjà de lire Saint Jean. Ou certains passages de Jérémie, vous dites, tiens, on est en train dans Saint-Luc, dans les passages les plus affectueux de Saint-Luc. Ou de, vous voyez, il y a des choses très impressionnantes. Mais dans le nouveau, ça devient clair. Oui, le nouveau, c'est le chiffre de l'ancien, dit Pascal. C'est que ça nous permet de décoder le chiffre, pas dans un sens kabbalistique exactement, mais ça nous permet de comprendre l'ancien. Alors, l'Ancien Testament, donc, qu'est-ce qu'il y a? Même plus que dans l'Ancien Testament, jusqu'au début de l'ère chrétienne, je mets entre guillemets. Est-ce que vous m'entendez dans le couloir là-bas? Ça va?
Il reste une place.
Okay, il reste une place ici, hein, donc c'est vraiment dommage que quelqu'un tende l'oreille. Alors, s'il veut me faire plaisir, il vient là. Et comme ça, je peux souffler. Non, venez, hein, je vous assure, il y a une place là. Bon. Ah. Donc, on parle de l'ère chrétienne entre guillemets parce que bon, maintenant on a démontré que en fait, l'ère chrétienne commence en moins 7 avant Jésus-Christ d'après notre codification actuelle. Bon, on en parlera peut-être un jour, c'est pas décisif. Mais enfin, aux alentours de cette ère chrétienne, on marque un maximum, vous voyez. Il y a une attente, hein, des premiers chapitres de la Genèse aux derniers prophètes. Joël, Malachie, etc., ce qu'on appelle les petits prophètes, il y a une série impressionnante de prédictions qui sont quand même convergentes, au dire de tout le monde. Parce que là, j'entends déjà une question, on va me dire, oui, mais les caractéristiques que vous donnez, je donne trois caractéristiques, est-ce que ce n'est pas trois personnages différents? Et il semble bien, d'abord d'après les textes mêmes, et je les ai sortis ici, il y a quand même trois pages, donc je ne vois pas les commenter un par un, mais il y a des théologiens et des juifs et chrétiens qui les ont commentés depuis 2000 ans, et on est tous à peu près d'accord de dire qu'en gros, il y a une personne. Il y a une personne qui est annoncée, et qui est annoncée dès le début. Et elle est appelée de différents noms, alors en hébreu, Messiah, en grec, Christos, et ça veut dire oint, c'est-à-dire celui qui est, c'est pour signifier, si vous voulez, le roi était oint de l'huile sainte, le prêtre était oint, et le Christ sera oint de la divinité. L'huile qui est, c'est un corps qui pénètre dans les corps vivants, donc c'est une belle image, oui. La divinité de Jésus pénètre son humanité. Voilà. Alors, le Christos, voilà, il était prédit. Il y a un personnage mystérieux qui est prédit, mais très tôt. Hein. Très tôt, et on s'aperçoit qu'on donne de lui un certain nombre de précisions, hein, en particulier des précisions, je dirais, biologiques. Dès le début, il y a, donc, vous savez que les premiers chapitres de la Genèse décrivent en paroles, si vous voulez, qu'il faut vraiment faire en lecture métaphysique, hein, métaphysique et historique, c'est-à-dire. Ça raconte des événements réels, mais avec un revêtement poétique et avec la façon de s'exprimer de l'époque et en empruntant des éléments en cosmologie en usage sans pour autant les canoniser. Bon. Mais cependant, il est certain qu'il y a un seul homme et une seule femme, qu'ils ont fait une faute très grave et que par conséquent, ils ont perdu l'amitié avec Dieu qu'ils avaient au début. Voilà ce qui est certain. Et qu'ils ont été créés dans le temps à un moment donné et que le genre humain tout entier descend de ces deux personnes-là. Et donc, dès le début, après la chute, il y a la promesse, ce qu'on appelle le protévangile, ça veut dire deux mots grecs qui veulent dire premier évangile, le protévangile de la Genèse. Donc il y a évidemment le serpent, c'est un symbole du diable. Hein. La femme et Adam discutent avec, surtout la femme d'ailleurs, hein, mais bon, après Adam discute avec la femme, bon, tout ça se passe très mal. Et au lieu de faire jouer l'amitié conjugale dans le bon sens, ça joue dans le sens de la séduction, la mauvaise. Hein, et du coup, tout ce cas se figure par un péché horrible qui est un péché de magie et d'orgueil, et un péché de révolte contre Dieu. C'est pas uniquement bouffer une pomme, c'est pas une pomme, etc. Il y a aussi la gourmandise, la concupiscence, la curiosité. Il y a toute une liste, mais le principal, c'est l'orgueil et la magie. Dominer le monde, voir ce que ça fait quand on n'est pas simplement les locataires, mais les propriétaires. Donc c'est gravissime, hein. D'autant plus qu'attention, il aurait été reçu premier à Normal Sup, hein, Adam et Ève. c'est pas des primates sous-développés, au point de vue métaphysique, hein, je sais pas. C'est une plaisanterie, je suis sûr, dans Malsup ou ailleurs, mais ils étaient des gens très intelligents. Hein. Ce n'étaient pas des espèces de sous-hommes, non, c'était des gens très intelligents. Métaphysiquement très intelligents, religieusement très intelligents. Ils avaient la science infuse pour construire justement tout le genre humain, etc. C'était mieux que Robinson Crusoe. Enfin. Bon, mais tout ça, on peut faire de tas de suppositions. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils étaient intelligents, que dans la lumière, ils ont préféré bidouiller. Bon. Et donc, au lieu de rentrer dans une perspective de reconnaissance, on rentrait dans une perspective de méfiance. Voyez. Comme certains d'entre de ceux qui m'écoutent actuellement. Une perspective de méfiance. Enfin, moi ou les gars que je répète, hein, parce que tout ce que je vous dis, c'est cette sortie des bouquins. Enfin, je mets un peu de ma sauce à bois, évidemment, pour que ça passe dans le langage d'aujourd'hui. Mais en gros, c'est dans les bouquins, hein, Saint Thomas, Pascal, Charles Journet, Lacordaire et compagnie. Et d'une perspective de méfiance. Eh bien, tout de suite, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc, vous voyez, une prédiction donc, biologique, c'est quelqu'un qui descendra d'Ève et donc d'Adam, bien sûr, hein, et cet héritage de la femme, nous les chrétiens, on sait que c'est la Sainte Vierge qui a accompli ce type-là, mais enfin, c'est dans cette ligne-là. Et ensuite, tout est précisé, à chaque fois, c'est répété, les bénédictions de Dieu, vous voyez, qui ne laissent pas le genre humain tomber, se fixent ensuite sur Sem, sur Abraham, alors j'ai mis les références au livre de la Genèse, sur Isaac, Jacob, Judas et David. Et on a tous les textes. Et on sait, alors là, de façon, je dirais, historique, hein, que ces textes correspondent bien aux époques et qu'ils ont été écrits dans le style et par la mentalité des gens de ces époques-là. Bien sûr, il y a à un moment donné, le Moïse, enfin, ou les gars qui ont écrit pour lui, ont fait une prophétie de l'avenir et la description du paradis terrestre a été révélée, évidemment, à ceux qui écrivaient. Hein, une prophétie en arrière. Bon. Mais sinon, pour les autres, la plupart, ils écrivaient assez vite après les événements et donc ils ont noté ça. Et donc, il y a un personnage qui est prédit comme ça, qui descendra donc spécialement de David. Et alors ça se précise de plus en plus, c'est pas simplement un peuple, le peuple on en parle, mais c'est une personne physique. Et alors, de ce personnage, on peut déduire trois caractéristiques, il est roi, il est serviteur souffrant exalté, et il est spécial, quoi. Le troisième, on en parlera un peu plus la prochaine fois, je l'ai mis pour mémoire, bon, parce que ça compte, mais c'est ce qu'il y a plus difficile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il sera roi, et que, alors ça, c'est, je cite même pas les choses, parce qu'il y en a trop, c'est dans les psaumes en particulier, hein, les trois rois, le fils de David régnera et sera roi, bon. Et alors, il y a une deuxième ligne qui se trouve dans Isaïe et dans Zacharie, ainsi que dans certains psaumes, où on s'aperçoit que cette même personne, parce que donc les textes sont tout à fait clairs, par exemple, quand Isaïe en parle, il parle du rejeton. Et le rejeton, c'est le rejeton de David, c'est le Messie. Donc c'est un langage, si vous voulez, il y avait aussi une typologie théologique, hein, donc on sait que c'est le même personnage. Et alors il le décrit d'une façon assez surprenante, qui a été en quelque sorte justement la pierre d'achoppement pour les juifs, un grand nombre de juifs du temps de Jésus. Il était objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait. Alors attention, ce passage est extrêmement important, parce que ça indique que ce serviteur souffrant est quelqu'un de distinct du peuple. Hein, notez-le, parce qu'on va revenir là-dessus. Nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment, qui nous rend la paix sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et après la fin de ce passage, Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, donc il va revenir. Par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, etc. Et donc toute la fin, c'est l'exaltation. Donc il y a un personnage assez curieux, qu'on a appelé serviteur, qui passe par une souffrance et qui est exalté. Et les passages prophétiques sont toujours très ramassés. C'est dans le même passage qu'on dit que celui-là, dont on sait par ailleurs qu'il est fils de David et roi, il sera serviteur, il va souffrir et il va être exalté. Et le psaume 21, par exemple, que Jésus récite sur la croix, est un psaume de ce type-là, qui se termine par des accents de triomphe. Et donc ça, c'est une des clés tout à fait importantes pour la figure du Messie. Il ne suffit pas que le Messie arrive, qu'il soit roi, il faut qu'il accomplisse les prophéties d'Isaïe et de Zacharie. Et en plus, troisième note, que je laisse en réserve, surtout pour la... la période où on parlera des le prochain café caté, un être mystérieux qui semble venir de Dieu lui-même. Un fils d'homme, mais qui vient sur les nuées, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Parce qu'en langage biblique, les nuées, c'est le signe de la puissance de Dieu. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu réaliser cette équation? D'abord, on va juste dire un petit mot. Est-ce que l'ère chrétienne, hein, ce que nous appelons l'ère chrétienne, c'était un moment messianique? Alors, on a des indices, alors là, parfaitement convaincants. Messori insiste beaucoup là-dessus, mais là, je crois que c'est absolument historiquement, absolument certain. Les Juifs attendaient le Messie à ce moment-là. Alors qu'ils aient eu raison ou tort, on verra ça après. Mais en tout cas, ils l'attendaient à cause de la prophétie de Jacob, que j'ai reproduit ici. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, le bâton de commandement, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Donc que les prophéties messianiques soient réalisées, la royauté universelle. Et qu'ils aient eu tort ou raison d'interpréter comme ça cette prophétie, ils se disaient, comme le dernier roi juste, c'était Hérode le Grand, qui avait été blackboulé, ensuite son pouvoir avait été diminué, et les principicules n'avaient plus le pouvoir royal plénier, il était réservé au basileus romain, à l'empereur romain. Et donc le sceptre était sorti de Juda depuis environ 5 ou 6 de notre ère. Et donc les Juifs considèrent à cause de ça qu'on était en période messianique. Il y a une deuxième prophétie, qui est les 70 semaines d'années de Daniel, qui a fait couler des wagons-citernes d'encre. Je vais pas vous la commenter parce qu'elle est un peu longue, mais il semble que ce soit, enfin, jusqu'à une date très récente, jusqu'à il y a 50 ou 60 ans, les exégètes catholiques et chrétiens interprétaient cette prophétie comme une prophétie chronologique qui indiquait la venue du Messie à 7 ans près, 3 ans et demi près. Parce qu'il y avait un édit qui était publié par un roi de Perse à un moment donné pour rebâtir le temple, et entre cet édit et la venue, depuis l'instant que sortit cette parole, qu'on revienne et qu'on rebaptise Jérusalem, jusqu'à un prince messie, donc c'est pratique, hein, 7 semaines et 62 semaines. Et alors après, bon, la prophétie est un peu plus difficile, donc elle fait 69. Puis après, il y a encore une semaine où il se passe des choses, donc 70 semaines, et on sait, par la façon de s'exprimer, c'est des semaines d'année. Donc 490 ans. Alors si on prend cette prophétie comme une prophétie chronologique, on se trouvait à la période messianique. Et alors, une confirmation de ça, et moi je pense personnellement, je n'ai pas de difficulté à la prendre dans un sens chronologique, même si elle peut être susceptible d'autres interprétations, voilà. Mais alors, parce qu'il y a des difficultés pour savoir quel édit il s'agissait, hein, donc là on obtient des dates assez différentes, et il y avait donc différents computes, différentes façons de calculer, mais en particulier on a retrouvé celle des Esséniens. Et on s'est aperçu que les Esséniens sont partis dans leurs abris anti-atomiques, là, qui prévoyaient les... Parce que pour eux, les temps messianiques, c'était la fin du monde. Hein. C'était la bagarre générale, la victoire des bons sur les mauvais. Il fallait être du bon côté, il ne fallait pas se contaminer avec les collabos et avec les gens de cette espèce, et avec un sacerdoce schismatique, etc. Et donc, ils étaient partis au désert en moins 20 avant Jésus-Christ. Ils ont été au désert de moins 20 avant Jésus-Christ jusqu'en 70, où les Romains les ont détruits. Donc on était en plein dans la période que les Esséniens considéraient comme messianique. Et encore autre signe très intéressant, c'est un passage des Actes des Apôtres où, au moment où on discute des titres de Pierre et de Paul, il y a un vieux barbu qui dit, attendez, on va les laisser faire, parce que des faux messies, il y en a eu plein, il y a un tel qui est parti au désert avec 5000 hommes ratiboisés, il y a un tel qui est parti là, il a pris la pile, et si ça vient des hommes, ça sera foutu, si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire contre. Ça c'est dans Actes chapitre 5, hein, Gamaliel je crois qui dit ça. Donc il dit, attendez, il y a eu des faux messies, il y avait plein de faux messies à ce moment-là. C'est pour ça qu'être procurateur de Judée, c'était du sport à l'époque. Hein. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient leur mettre la pile encore plus qu'Obélix avec les Romains, mais comme les Maccabées avec les Grecs, quoi. Et ça avait marché, hein. Les Maccabées, ils avaient réussi. C'est incroyable d'ailleurs. Incroyable humainement, il y a vraiment un mystère historique. Hein. Ils ont réussi à foutre la pile aux Hellènes, quoi. Alors que quand même, ils étaient inférieurs numériquement, peut-être stratégiquement, sans doute pas, qu'ils ont réussi. En tout cas, ils avaient une pêche. Parce que justement, ils étaient le peuple théophore, mais malheureusement, ils ont foiré après, c'est dommage. Parce que l'époque des Maccabées, c'était des choix en époque, c'était vraiment sympa, quoi. Et alors, donc, voilà. Alors, après, ils se sont dit, bah, c'est l'époque messianique, ça va marcher. Et la preuve, c'est les guerres judaïques. Les guerres judaïques, Flavius Joseph, qui lui, alors, vraiment, passé à l'ennemi, hein, il a commencé du côté des Juifs, terminé du côté des Romains. Et on s'est demandé pourquoi ils ont fait ce truc qui était aberrant. Se soulever contre la plus grande puissance, à mon avis. Peut-être, disons, la plus grande puissance politique de tous les temps, la plus grande réussite politique de tous les temps, l'Empire romain. Ce qui est invraisemblable. Avec quand même une armée assez performante, hein, excusez-moi. Hein. Parce qu'ils ne sont pas faits, ils se sont rappelés après sous le nombre. Mais normalement, ils gagnaient tout le temps, les Romains. Ils avaient un nombre de gens absolument énorme. Il y avait plein de raisons en réserve en Syrie qui sont descendues, plein de légions et tout. Comment voulez-vous qu'à quelques dizaines de milliers, ils sont levés, ils sont battus, mais comme des dingues pendant 6 ans. Comme des dingues, avec un ciel où ils n'ont pas voulu se rendre. Les femmes bouffaient leurs enfants pour subsister pendant le ciel. C'était abominable. Ils ont tenu. On dit, mais ils sont fous. Oh, ils sont pas. Ils étaient fous, oui, mais ils étaient fous peut-être d'une folie religieuse. D'après Joseph, c'est parce qu'en fait, ils pensaient que le Messie allait venir et tac, c'était fini. Avec 7 légions d'anges, hein, si vous faites le calcul, 6 fois 1200, pour foutre la pile aux légions de Titus, ça marchait. Hein. Donc, voilà, et Flavius Joseph nous dit, ce qui poussa plus fortement les Juifs à la guerre, ce fut une prophétie ambiguë. Ambigu, dit-il, lui, le renégat, hein, retrouvé également dans les Saintes Écritures, donc dans Daniel, selon laquelle, en ce temps-là, quelqu'un provenant de leur pays deviendrait le dominateur du monde. Et ça, ça continue un peu jusqu'à Bar Kocheba en 132. Après, c'est fini. C'est intéressant. Après, il n'y a plus de faux messie, du moins pour arriver à faire des trucs pareils. Et alors, cette attente des Juifs, donc, qui est attestée, hein, qui est attestée, qui explique que quand les mages viendront, bon, ben, les sages donneront la solution sans beaucoup de problèmes. Cette attente des Juifs est attesté également en Orient, ce qu'on appelle l'Orient si vous voulez, bon, Mésopotamie, etc. Et puis chez les Romains. On a retrouvé, enfin, il y a déjà un astronome assez connu qui s'appelle Kepler qui a fait un calcul et il s'était aperçu qu'en moins 7 avant Jésus-Christ, vous aviez une parce que vous savez, à l'époque, enfin, Kepler lui n'était pas astrologue, quoi, parfois il déconne un peu, mais enfin, normalement, c'était à l'époque qu'on avait déjà distingué normalement l'astronomie et l'astrologie. Dans l'ancien temps, non, les astronomes étaient tous astrologues, en particulier les Chaldéens. Et donc, il y avait, si vous voulez, des signes typiques. Bon, les poissons, c'était la constellation des poissons, c'est le signe de la fin des temps. La planète Saturne, c'est celle qui protégeait Israël. Et la planète Jupiter, c'est celle qui signifiait la domination du monde. Voilà, en gros, dans la cosmologie babylonienne, hein, Chaldéenne. Voilà. Et alors, Kepler avait fait un calcul, et il y avait une conjonction, justement, assez rare de Jupiter et de Saturne, je crois que c'est toutes les 794 ans, qui se retrouvait dans la constellation du poisson en moins 7 avant Jésus-Christ. Alors, Kepler a publié ça en 1603. Bon, ça n'a pas eu un gros succès. Hein. Mais en 1925, on a retrouvé, alors là, on a commencé à s'y intéresser d'un peu plus près, on a retrouvé les tablettes, parce qu'ils étaient quand même assez forts en ce qu'on appelle l'astronomie de position, les Égyptiens, les Chaldéens. Ils n'avaient pas l'astrophysique, mais ils avaient quand même l'astronomie de position. Et ils étaient très fortiches là-dedans, ils avaient des tables. On en a retrouvé certaines. Et celle des savants chaldéens de Sippar était publiée en 1725, et pile c'est ce truc-là. C'est moins 7 avant Jésus-Christ, le Saturne et Jupiter se retrouvent en même temps dans les poissons. Ce qui expliquerait, alors bon, ça c'est joli, hein, mais c'est non vero ben trovato, mais là je crois que c'est pas trouvé. Je crois que c'est tout à fait juste, me semble-t-il. Hein. Ce qui expliquerait, si vous voulez, la démarche des sages chaldéens, qui disent, bon ben, il y a cette conjonction extraordinaire, donc les dominateurs du monde va sortir de Juda. D'ailleurs, Suétone et Tacite, que je vous ai déjà cité, ont fait état de cette croyance répandue dans l'Orient. Donc vous voyez, on a l'attente des peuples, et donc tout a l'air d'assez bien concorder. Et c'est précisément le moment où apparaît, donc, dans la tribu de... dans le clan, la tribu, le clan, etc., de Judas et de David, Jésus, fils de Marie. Alors là, si vous voulez, il y a deux moyens, il y a peut-être deux façons de travailler. Une façon un peu plus minutieuse, si on accepte l'Ancien Testament. Si on accepte l'Ancien Testament, on montre, en regardant ce qu'a fait le Christ et l'Église, qu'il le réalise. Vous voyez ? Donc ça marche pour les chrétiens, pour les juifs, et pour les gens qui estiment aussi que historiquement, bon bah, l'Ancien Testament n'est pas venu comme ça, comme les cheveux sur la soupe. Hein. Et puis il y a une preuve plus globale, que je réserve pour un deuxième temps, une preuve plus rationnelle à mon avis, mais qui demande un petit peu d'attention. Alors pour ceux qui admettent l'Ancien Testament, on peut faire la chose soit positivement, soit négativement. Alors positivement, ben, je vous ai mis les textes, je ne vais pas les refaire là ce soir, parce que ce serait vraiment très long. Si vous voulez, positivement, on peut, si vous voulez, d'abord prendre on peut procéder par les caractères généraux ou bien par les prophéties dites de détail. Mais je crois qu'il faut s'appuyer sur les deux éléments. Si on prend les prophéties dites de détail, enfin qui sont quand même pas des tout petits détails, il naîtra d'une vierge. Au chapitre 7 d'Isaïe, vous avez un mot hébreu qui peut se traduire par jeune fille ou vierge, et le traducteur, très probablement inspiré de la Septante, a choisi le mot vierge. Donc il naîtra d'une vierge. À Bethléem, ça en est sûr, chapitre 5 de Michée. Quand les astrologues vont venir, de Mésopotamie, ils interrogent les sages, il naîtra à Bethléem. Donc là, c'était pas discuté. Hein. Fils de David, bon, les généalogies de Luc et de Matthieu établissent bien la filiation davidique de Jésus avec la façon de faire des orientaux. Donc la loi du Lévirat, différentes choses comme ça, mais c'est quand même une véritable généalogie, et ils tenaient leur généalogie, et ça marche, quoi. Même si on n'a pas relevé tous les ancêtres en détail. Bon, fils de David, il a un précurseur qui a fait assez de bruit, c'est Jean-Baptiste. Malachie a prédit que lorsqu'il viendrait, le Messie aura un précurseur. À tel point que les Juifs attendent Élie avant le Messie. Et de fait, Élie viendra, d'après la pensée des pères, à la fin des temps, avant le Christ, dans le retour de gloire du Christ. Bon. Donc il y a un précurseur qui est Jean-Baptiste, il fait des miracles. Voilà, c'est très beau. Dans Isaïe 35, je vais vous lire cette prophétie-là. Donc c'est la description des temps messianiques. Alors c'est des prophéties qu'il faut prendre vraiment, je crois on va le voir, on est forcé de les prendre dans un certain sens spirituel. C'est la description d'un désert qui se met à fleurir. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. Donc on voit Jean-Baptiste qui annonce ça. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se défileront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus reçoit les envoyés de Jean-Baptiste, ils lui disent de la part de Jean-Baptiste, est-ce que tu es celui qui doit venir, ou Erkomenos, celui qui vient, ou bien est-ce qu'il faut en attendre, est-ce que tu es le Messie? Et Jésus, avant de répondre, fait des miracles. Il guérit tout un tas de gens qui sont autour de lui, et il tourne vers les envoyés, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, et les sourds entendent, etc. Et il ajoute, et bien heureux, celui qui ne sera pas scandalisé en mon nom. Donc il accomplit, vous voyez, ça, essayez-vous de faire ça un peu. Essayez de. Un gars qui vient, est-ce que t'es le fameux, je sais pas, le marabout, le gourou et tout. Ah bah oui, attends, vous guérissez vraiment des gens, hein, avec des tas de médecins athées pour vérifier après, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Et puis après, il dit, bah tu vois, je t'avais dit, c'est moi, hein. Ben attendez, c'est pas si facile que ça à faire. Bon, donc il fera des miracles, il en a fait, on verra beaucoup en février. Il est rejeté par beaucoup. Ça, le rejet est prédit par Isaïe et par la fameuse pierre d'angle dans les psaumes, hein, qui est rejetée par une partie de son peuple. Il subit les souffrances rédemptrices, on vient de lire Isaïe. Il ressuscite, c'est le psaume 15. Alors on verra quand on parlera de la résurrection, comment il prouve la résurrection, il prédit la résurrection. Il envoie l'esprit, le prophète Joël, qui est utilisé par saint Pierre dans le grand discours de la Pentecôte. Ce que vous voyez, c'est l'effusion prédite par Joël. Et alors ensuite, surtout, c'est plus important, ça c'est un ensemble de choses, et encore je passe sur beaucoup de choses. Mais le plus général, c'est que sa religion se répand dans le monde entier. Alors ça, c'est quand même très important, ça va rejoindre l'approche générale. Et Pascal nous dit, il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté de venir en roi, mais il est bien venu avec l'éclat de son ordre. Ça c'est une phrase célèbre de Pascal, il est venu avec les cartes sonores. Si Dieu vient, ben, c'est pas pour jouer les chefs politiques ou les inventeurs de mécanique quantique ou de relativité générale. Hein. Ça, il laisse ça aux hommes. Hein. Alors ça, c'est positivement. Vous voyez, en Jésus, on voit l'ensemble des prophéties de détail, hein, au moins dans leur convergence, disons, et générale, parce qu'ils concilient à la fois le côté de la royauté et le côté du serviteur souffrant, qui sont réalisés. Alors ça, c'est important d'insister sur le fait que justement, cette royauté est bien réalisée dans la sainteté, dans la charité, dans l'amour. On va revenir là-dessus. Alors maintenant, négativement, pour ceux qui admettent l'Ancien Testament, imaginez-vous que vous admettez l'Ancien Testament, qui est le cas d'un certain nombre, bon, comme parole de Dieu. Et à l'époque du Christ, vous aviez différentes interprétations. Vous aviez l'interprétation vulgaire, des gens qui ont voulu le faire roi, pour avoir les pizzas à domicile, en gros, quoi. Conception vulgaire, quoi. Roi terrestre qui apporte le bonheur temporel. Bon. Une conception rabbinique, c'est un messie qui, par Israël, va dominer le monde entier politiquement. Et va imposer la vraie religion au monde entier par la domination d'Israël. Et puis, la conception apocalyptique, celle des Esséniens, par exemple. Jugement dernier, le feu, etc. Et très vite, top, les méchants sont tués, les bons partent au ciel, etc. Bon, et bien laquelle s'est réalisée? Pour l'instant, aucune. Hein. Alors, précisément, comme on était dans les temps messianiques, il y a un vrai problème. Et on remarque aussi qu'aucune de ces trois conceptions erronées ne s'est réalisée, mais que les juifs qui ont gardé la foi dans l'Ancien Testament, du moins un grand nombre d'entre eux, sont passés à une conception assez vite, hein, parce que je vous dis, la dernière grande révolte de faux messie, c'est Bar Kocheba, 132. On signale encore un faux messie en Pologne au XVIIe siècle, mais enfin, ils se font de plus en plus rares, quoi. Le messie est de moins en moins personnel. Il passe à une conception, le messie c'est le peuple juif, ou le messie c'est une idée. Ou même, j'ai lu encore récemment, le messie c'est l'avenir. Alors là, vous prenez pas de risque, là. Comme l'avenir arrive toujours, c'est l'avenir, c'est le fait, vous voyez, qu'on est dans une dynamique et tout, quoi. Alors, j'en dis pas plus pour pas alimenter l'antisémitisme de certains parmi vous, mais c'est assez curieux quand même. Et c'est vrai que quand j'en parlais sur notre fameux prof d'écriture sainte que j'ai cité à plusieurs reprises, il est très ami avec le rabbin de sa ville, qui veut le faire juif, mais il n'a pas encore réussi. Et alors il lui dit, mais tu as lu Jérémie 31, ou bien à la religion intérieure, je vous enlèverai votre cœur de chair, de pierre, je mettrai un cœur de chair, et la loi, je l'écrirai plus sur des tables, mais je l'écrirai dans votre cœur. Ah non, non, non. Les prophètes, c'est la Torah qui nous intéresse. Donc il faut quand même laisser de côté, même Isaïe, sauvé à tort souffrant, c'est difficile à interpréter parce que précisément ça colle pas. Donc voyez, là négativement, il y a une preuve, il y a une montée du messianisme jusqu'au temps du Christ, et après il y a une disparition du messianisme personnel. Alors soit le Christ se réalise, soit personne. Et alors, il y a maintenant une deuxième chose, plus importante à mon avis, enfin plus importante, c'est pas le même niveau. Mais je sais pas si. Bon, je pense que vous allez j'espère que vous allez la comprendre. Et c'est une preuve qu'on peut saisir au niveau de la raison, c'est Pascal insistait beaucoup là-dessus. Il disait, on prouve les deux testaments d'un seul coup, hein, avec ça. Et c'est assez bien vu. En fait, vous avez. Vous avez la prédiction, et pour ça il faut avoir une lecture profonde, hein, de l'écriture. Le plus important dans l'écriture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut se le rappeler, parce que comme c'est réalisé, on n'y pense plus. C'est que la religion vraie est une religion universelle et intérieure, avant d'être nationale, ethnique, externe, politique. Alors ça vous paraît des choses évidentes, mais c'était absolument improbable et inimaginable, si vous voulez, pour... non seulement pour les juifs, mais pour toute l'Antiquité, où la religion était nationale, la religion était surtout un culte externe, etc., etc. Le Ratzinger, justement, dans sa conférence ici à la Sorbonne en l'an 2000, a fait son parallèle à partir d'un auteur latin sur les quatre conceptions de la religion, dont la religion politique, la religion physique, la religion poétique, etc., et la religion de la vérité, qui est le christianisme la seule, qui dit qu'il est en relation avec la vérité. Alors nous, on est tellement habitués à ça que je me demande si l'argument porte encore. Enfin, moi, je crois qu'il porte, parce que c'est quand même impressionnant que vous avez des gens qui sont éduqués dans cette idée que, bon, il y a le vrai Dieu, d'accord, ils ont le vrai Dieu, mais c'est le Dieu d'Israël, et c'est pour eux, et puis il s'agit surtout de faire la loi qui est un certain nombre de choses externes. Bien sûr, les prophètes nous disent aussi qu'il faut l'intérieur du cœur et tout, mais il y a quand même tous ces éléments externes très très importants. Et puis, les prophètes disent en même temps, attendez, ça va changer. À un moment donné, il va y avoir ci et ça, et ça va devenir le monde entier qui va être intéressé par ça. Il n'y aura plus les sacrifices dans le temple, ça sera vraiment la religion du cœur, ça sera ce que Jésus appellera après les adorateurs en esprit, en vérité, et ça sera pour le monde entier. Et ça, c'est prédit des milliers d'années avant, et ça arrive. Oui. Et donc vous avez, voilà comment c'est résumé par Lacordaire, quand il parle de, ici, là, à côté à Notre-Dame, quand il parlait à Notre-Dame de l'idée messianique. Hein. L'idée messianique se composait de quatre éléments. Sous son influence, le peuple juif croyait, en premier lieu, qu'un jour le Dieu un et créateur adoré par lui deviendrait le Dieu de toute la terre. Ce qui déjà est incroyable, que le monothéisme se répande partout. Deuxièmement, il croyait de plus que cette révolution s'accomplira en un seul homme, appelé le Messie, etc., puis d'autres noms. Troisièmement, il croyait que cet homme serait juif de la tribu de Juda et de la maison de David. Et quatrièmement, il croyait enfin que cet homme prédestiné souffrirait et mourrait pour accomplir l'œuvre de transformation dont la providence l'avait chargé. Et donc après, Lacordaire peut développer ça, en disant, ben voilà, il y a ce fait qui était un truc absolument extraordinaire. Je crois que c'est Pascal, j'ai noté la phrase où Pascal décrit ce que pensent les juifs. Ils soutiennent qu'ils sont les seuls au monde à qui Dieu a révélé ce mystère, que tous les hommes sont corrompus et dans la disgrâce de Dieu, ce qui est vrai avec le péché originel, qu'ils sont tous abandonnés à leur sens, etc. Puis il continue comme ça. Mais que Dieu ne laissera pas éternellement les autres peuples dans les ténèbres, qu'il viendra un libérateur pour tous, qui sont au monde pour l'annoncer aux hommes, qui sont formés exprès pour être les avant-coureurs et les héros de ce grand avènement, et pour appeler tous les peuples à s'unir à eux dans l'attente de ce libérateur. La rencontre de ce peuple m'étonne, au sens classique, c'est-à-dire que c'est, j'hallucine, en gros, hein, et me semble digne de l'attention. Donc c'est extraordinaire, et ce truc-là s'est produit. Il s'est produit, et il s'est produit, nous l'avons sous les yeux, c'est ce que dit l'accordeur, justement, à son interlocuteur, aux gens qui l'écoutent. Il dit, écoutez, vous allez pas nier l'idée messianique, vous avez tous les livres qui sont encore gardés par les juifs, vous allez pas nier sa réalisation, parce que vous sortez de l'église catholique, vous avez été baptisé en elle, et l'église catholique nous présente un groupe religieux, qui est répandu dans le monde entier, qui prêche une religion d'abord intérieure, et non pas politique, ethnique, etc., et qui est fondée sur quelqu'un dont même les juifs reconnaissent qu'il est fils de David et qu'il vient de Bethléem. Et donc là, il affirme, quelque part dans les pensées, que... il est prédit qu'au temps du Messie, il viendrait établir une nouvelle alliance qui ferait oublier la sortie d'Égypte, qui mettrait sa loi non dans l'extérieur mais dans le cœur, qu'il mettrait sa crainte qui n'avait été qu'au dehors, dans le milieu du cœur, qui ne voit la loi chrétienne dans tout cela. En fait, la prédiction est réalisée dans ce qui se présente comme étant l'Église catholique. Et alors, il répond aux Juifs, parce qu'il s'est pas mal préoccupé de l'apologétique par rapport aux Juifs, il répond... Certains juifs, c'est vrai, n'ont pas reconnu le Christ. Mais quand on regarde les arguments qu'ils ont employés, c'était surtout du côté de la royauté. En fait, ils n'ont pas voulu admettre une royauté dont le sens qui se dévoile ultimement après des préparations charnelles soit un sens essentiellement spirituel. Voilà ce que dit Pascal. Les juifs le refusent, mais non pas tous. La raison qu'ils en ont est la seule qui se trouve dans leurs écrits. N'est que parce que Jésus-Christ n'a pas dompté les nations en main armée, n'ont-ils que cela à dire. Jésus-Christ a été tué, disent-ils. Il a succombé, il n'a pas dompté les païens par la force, il ne nous a pas donné leur dépouille, interprétation littérale des, faussement littérale des prophéties, il ne donne point de richesse, n'ont-ils que cela à dire, c'est en cela qu'il m'est aimable. Ça, c'est aussi une phrase célèbre de Pascal, disant que les arguments que les juifs, ces juifs qui refusent le Christ, lui opposent, sont ceux-là même pour lesquels Pascal aime le Christ. Parce que c'est vrai quand même, sans dire que c'est absolument impossible, c'est quand même un petit peu particulier la conception que pour faire régner la vraie religion, il faut donner les dépouilles du monde entier à un seul peuple et que par lui, les autres doivent être convertis à la vraie religion. Et en fait, ce qu'on peut dire, voyez, c'est qu'il y a eu une sorte de mal-donne, voyez, dans la réception des prophéties qui est tragique et qui continue chez un certain nombre de juifs. Je dis c'est un certain nombre parce que vous savez, la pensée religieuse des juifs, enfin... ceux qui sont racialement ou nationalement juifs, est extrêmement varié. Il y a des incroyants purs, il y a des juifs messianiques qui reconnaissent Jésus comme le Messie sans dire qu'il est Dieu, il y a des juifs qui se présentent comme athées, Dieu n'existe pas mais nous sommes le peuple élu, comme disait un humoriste juif américain, Dieu n'existe pas mais nous sommes le peuple élu, c'est pas mal. Bon, il y a des juifs très pieux, il y a des juifs qui sont très proches du christianisme, ah bon, donc il y a tout. Mais enfin, il y a une maldonne terrible en ce sens que, voyez, quand vous lisez les prophéties, si on les prend dans un sens, je dirais, c'est vraiment le sens, c'est pas le sens mystique au sens... Il y a des sens mystiques parfois dans l'écriture, vous voyez. Les Hébreux traversent la mer Rouge. Le sens spirituel, c'est le baptême. Parce que Dieu écrit, non seulement sur un papier, mais avec les hommes, il écrit des choses qui sont vraies. Donc la traversée de la mer Rouge est le signe du baptême, de la passion du Christ et du baptême des chrétiens. Donc ça, c'est vraiment un sens spirituel. Mais quand un prophète vous dit, je vais vous donner un royaume où coulera le lait et le miel, les arbres vont pousser, il y aura des vignes, il y aura des choses, des grappes énormes, etc., etc. Et qu'il faut absolument prendre... Ça, il y a un sens littéral, mais il y a un sens littéral profond, vous voyez, qui fait que, quand les apôtres ont vu comment ça se réalisait, la vraie royauté qui est comme une royauté spirituelle, enfin, je ne sais pas si on n'a pas compris ça, c'est précisément... Pour moi, c'est un signe de vérité du christianisme, quoi. Si c'est que le Christ n'a pas mis la pile au gars qui venait l'arrêter, bon, ben, quand il n'a pas mis la pile. Mais il a fait des choses que personne n'a jamais fait. Enfin, je sais pas, lisez le récit de la Passion, récemment je lisais un truc d'un gars qui écrit des contes, enfin, assez favorables au christianisme, un normalien, qui était complètement athée, qui s'est mis à lire les quatre évangiles d'un coup. Il était complètement séduit, quoi. Je sais pas s'il a vraiment trouvé la foi, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement impressionnant quand cet homme-là, moi ce que je pense, c'est que même si Pascal a raison, et que la preuve par les prophéties est vraiment un miracle subissant, hein, tout à fait profond, que nous, on a plus de mal à voir parce qu'on est dedans, on est le fruit de ces prophéties. Donc, ça nous paraît évident que la religion est pour tout le monde, quoi. Mais c'est un truc complètement révolutionnaire et en plus totalement improbable. surtout fait par un groupe de gars qui étaient détestés par beaucoup de gens, précisément parce qu'ils étaient les mecs, c'est nous qui avons la vérité, etc., écrasez-vous, on ne fait pas votre service militaire, on ne va pas dans vos temples, on ne vous touche pas au marché, parce que, etc. Et c'est ces gars-là qui ont converti le monde à l'idée de l'universalisme de la religion et au monothéisme. En plus, en ayant prévu, essayez-vous un peu, tenez, je vais vous lire un truc de... Je vais vous lire un truc de Lacordaire. Essayez de vous calculer 2000 ans avant. Parce que Lacordaire, s'adressant à ces bourgeois voltairiens qu'il a commencé déjà à en convertir un certain nombre, hein, il dit voilà, vous avez le fait, l'idée messianique et le christianisme, et la jonction c'est Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que vous allez nier maintenant? Alors il cherche toutes les possibilités. Alors il dit, voilà, les proportions de Jésus-Christ dans les temps qui l'ont précédé sont plus frappantes encore que les proportions toutes divines de sa vie et de sa survie. Car enfin, quand on vit, on a une puissance, on a une action. On peut faire des trucs et puis écrire des mémoires que les arrière-petits-neveux vont lire. Bon, je sais pas. Mais sur ce qui nous a précédé, sur le passé, que peut-on? Qui de nous, si éminent soit-il, peut se faire un ancêtre? Qui de nous, voulant établir une doctrine, se créera une avant-garde de générations déjà fidèles à une parole qui n'était pas encore? Enfin, imaginez que je vais prendre le binarisme, je sais pas, et que j'ai calculé des mecs 2000 ans avant pour préparer mon coup. Ben, attendez. À ce moment-là, je suis plus que Goldorak ou que je sais pas quoi, je suis passé par un trou du continuum des 60. Hein. Bon, qui se créera une avant-garde de générations déjà fidèles à une parole qui n'était pas encore. Ah, messieurs, le passé est une terre close. Voilà, il y a une chose très forte de la corner. Le passé n'est même pas un lieu où Dieu puisse agir, à moins qu'il n'y agisse d'avance en le préparant. Si Jésus-Christ avait été comme l'un de nous, tombé sans une préexistence providentielle entre le passé et l'avenir, il eut vainement demandé à l'histoire accomplie et fermée un piédestal qui le reporta de 20 siècles en arrière de son propre berceau. Bon, c'est quelqu'un qui parlait français, comme vous le remarquez. C'est quand même pas mal. Essayez de vous faire un truc qui vous reporte... Parce qu'il imagine toutes les hypothèses, hein, que des gars disent, mais les juifs ont comploté pour se rendre intéressant, quoi. Donc il y a 60 générations de types qui ont préparé un gars qui ensuite ils ont créé pour faire un canular. Enfin, un canular qui leur rapportait des impôts, quoi. Enfin bon... C'est vraiment, humainement, ça ne tient pas. Évidemment, c'est une adhésion humaine. Hein. C'est une adhésion humaine. C'est-à-dire que je lisais récemment un récit de la conversion d'un Marocain. Enfin, là où j'en suis, il a déjà baptisé maintenant, là où j'en suis. Mais un peu au début, qui écrivait un Turc de Crète converti 20 ans avant. Et les premières phrases qu'il disait, la première lettre qu'il lui écrit, il dit voilà, depuis que j'ai lu l'évangile, la figure de Mohammed. Mohamed a pâli dans mes yeux et mes convictions musulmanes se sont ébranlées. À cause justement de la transcendance, ça sera notre troisième conférence au mois de mars, la transcendance du christianisme. Et je crois que finalement, tout amène à ça, si vous voulez. Bien que ce soit en fait qu'une confirmation, tout amène à ça, c'est-à-dire que aussi bien les prophéties que les miracles, que les autres choses qu'on va dire, amènent, si vous voulez, au fait que le Christ, sa doctrine, est quelque chose de transcendant par rapport au reste et qui nous émeut et qui nous touche profondément. Mais cependant, il y a des chemins pour y arriver qui peuvent être assez variés. Quoi. Certains seront touchés plus par les miracles, d'autres par les prophéties. Mais au total, moi, ce que je vois, par exemple, là, pour eux, c'est Abdeljalil, ce gars-là. Abdeljalil disait ça, et je crois que presque tous les convertis, enfin, moi, j'en ai fait l'expérience dans mon retour au catholicisme, où il a fallu comme des arguments métaphysiques, bien sûr. Mais qui, au fond, je vous disais, il y a quelque chose du cœur. Quoi. Qu'est-ce qui ouvre le cœur? Il s'agit de donner sa confiance. C'est pas la démonstration de l'équation de Schrödinger que je suis en train de vous faire ou de je sais pas quoi non, c'est quelque chose de est-ce que ça vaut la peine de donner son cœur à cet homme? Et là c'est vrai que l'argument de la transcendance aussi bien les prophéties que les miracles sont en fait orientés au Christ dont la figure dépasse, si vous voulez, tous les cadres humains, la figure, la doctrine et l'impact dans l'histoire dépasse tout ce qu'on peut imaginer et en plus nous touche parce qu'elles viennent nous prendre où on a besoin d'être pris, vous voyez. Il y a quelque chose, ça rejoint en nous. Surtout qu'il y a quand même une grande richesse dans cette transcendance-là, ça rejoint des choses tout à fait bouleversantes, mais il ne faut pas négliger les autres éléments. Oui. Parce que c'est vrai que maintenant, si vous relisez, moi maintenant je me suis un peu mis dans l'Ancien Testament, difficilement, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez brutal. Hein. Par exemple, si on dit à l'office, je crois que c'est vendredi à Vêpres, bienheureux Babylone, ceux qui prendront tes enfants par les pieds et qui taperont leur tête contre le rocher. Bon, alors, je veux bien que vous fassiez une interprétation littérale, les gars. Mais alors, c'est pas vraiment bon. Moi, ma mère est tertiaire dans notre fraternité. Et elle a beaucoup de mal à dire ce psaume-là. Alors, j'ai beau lui expliquer qu'il faut prendre ça dans un sens. Alors, Saint Benoît explique ce passage en disant que quand le démon vous tente, vous prenez les rejetons de la pensée diabolique et vous les tapez sur le rocher qui est Christ. Alors il est évident que même si, comme l'explique très bien le cardinal Journet, citant Lagrange, il y a une espèce d'enveloppe, si vous voulez. Il y a une enveloppe temporelle. Il y a comme un cadeau, si vous voulez. Vous dites au gamin, je vais t'offrir ça à Noël, un truc qu'il aime beaucoup. Ou un gamin ou un de vos amis, peut-être pas un gamin, mais... Et alors vous dites une phrase un peu large qui est susceptible de différents sens. Et des sens qui vont toutes dans le même sens. Ben, tu vas voir, ça va être quelque chose, tu vas te régaler, ou tu vas être... Et alors, le gamin, en fait, quand il s'aperçoit que c'est encore mieux que ce qu'il attendait, tu vois, bon, c'est pas un gâteau, mais en fait, c'est délicieux, mais c'est le concert qui est de l'auteur qui préfère, il ne va pas vous reprocher de ne pas vous avoir pas donné le gâteau. Enfin, c'est s'explique un peu Lagrange en disant, bon, il fallait, c'était quand même un peuple très charnel, et puis tout le monde était charnel à l'époque. Et puis de soi, bon, le nationalisme, le patriotisme, c'est pas une mauvaise chose. À mettre la pile à Canaan, à tout ça, c'est plutôt sympathique. Disons, on a une première. Enfin, vous, ça n'est pas tellement, mais à l'époque, ça l'était. C'est comme des chefs bédouins, hein, si vous voulez, puis on se faisait la guerre, on se tapait dessus, puis après on prenait le thé éventuellement, mais bon. Donc, Dieu s'est vraiment mis là-dedans, il a dit, écoutez, allez vers là-bas. Vous aurez une certaine bénédiction temporelle. Alors, rassurez-vous, je vais terminer. Mais je vais terminer sur la distinction des bénédictions. On dit qu'il y a les prophéties temporelles. Et on dit qu'elles ne sont pas accomplies. Alors d'abord, elles étaient conditionnelles. Si Israël avait été fidèle, qu'est-ce qui serait passé? Il est très probable qu'il y aurait des bénédictions temporelles considérables. Et de toute façon, le christianisme se serait répandu par, beaucoup, encore plus qu'il l'a fait, par Israël. Bon. Donc elles étaient conditionnelles. D'ailleurs, ça, c'est marqué explicitement. Autant la descendance de David, c'est marqué sans condition. Autant la prospérité, les agrandissements temporels, si tu observes ma loi, si tu ne l'observes pas, Assur va venir, l'Égypte va venir, etc. Donc c'était conditionnel. Et pourquoi Dieu a voulu faire ces propositions comme pour allécher les gens? Eh bien, je crois qu'il s'est vraiment mis, si vous voulez, à la portée au niveau, si vous voulez, d'âme à la fois nationaliste, si vous voulez, patriotique et aussi religieuse. C'est-à-dire que dans les bénédictions temporelles, vous avez des biens qui sont des biens un peu inférieurs, bon, qui sont, si vous voulez, l'argent ou la. Bon, la quantité des biens, etc., les progrès techniques et tout, bon, tout ça c'est très gentil, mais c'est quand même un peu accidentel. Et puis vous avez des biens temporels qui, eux, nous dit le cardinal Journet, accompagnent toujours le développement de la vraie religion. La morale naturelle, le droit des gens, la connaissance de la spiritualité de l'âme, la connaissance de la créature, la connaissance du créateur, le respect de la personne humaine, la noblesse du travail, la dignité de la famille, de la politique. Et donc ces biens-là, voilà, ceux-là ils sont donnés, ils sont vraiment donnés avec la vraie religion. Et donc Dieu proposait, si vous voulez, aux âmes religieuses une enveloppe de bénédictions temporelles, mais de façon à attirer leur cœur pour que se rendant compte quand même qu'est-ce qui est digne de Dieu, c'est le grand argument de Pascal, qu'est-ce qui est digne de Dieu, ben, c'est quand même les promesses éternelles, c'est comme la morale spirituelle, etc. Et donc une fois attiré par ça, observant cette morale, c'est vrai que c'est quand même mieux que la morale naturelle soit observée, hein. Et de fait, si vous observez ça, eh bien vous allez aller plus profondément et vous allez comprendre que Dieu vient très au-delà de ce que vous aviez cru dans un premier temps être promis. Quoique, quand on regarde les prophètes, hein, on s'aperçoit que certains avaient certainement déjà percé la profondeur de l'avènement, enfin, de Dieu dans le monde. Alors je termine là-dessus et j'écoute vos questions. Merci. Que d'abord, il y a le problème, c'est là. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, c'est la fixation du canon judaïque actuel, hein, qui est postérieur au Christ. Hein, donc, pas mal d'auteurs, en particulier certains pères de l'Église, Saint Jérôme n'est pas tout à fait de cet avis-là, mais certains pères de l'Église pensent que le tri a été fait de façon à atténuer un peu ce qui pouvait aller trop dans le sens d'un Messie personnel. Le tri, enfin, pour certains des livres et pour certaines des leçons, si vous voulez, de ce qui a été dit. Voilà. Et alors après, dans le Talmud, c'est vrai que parce qu'il y a beaucoup de traditions qui se recoupent, hein, dans le judaïsme. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut vous rendre compte que le judaïsme, un peu comme l'islam, enfin, je sais pas, il y a certainement des nuances, mais vous voyez, je crois que nous, on insiste tellement sur la doctrine qu'on a du mal à comprendre qu'il y a des choses qui sont d'abord des lois. Et la Torah, c'est une loi. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans l'islam, il y a un peu ça aussi, il y a des choses à faire. Il y a un dogme, il y a un certain nombre de choses, mais nous on est plus focalisé sur le dogme et le mystère Tandis que dans ces religions-là, on est plus focalisé sur ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que l'interprétation des Talmud et compagnie va vers des choses moins... Mais c'est vrai qu'il y a aussi des traditions postérieures qui sont très spirituelles dans le judaïsme. Très très spirituelles. Et je vous dis, actuellement, il y a, en Terre Sainte et ailleurs, il y a un courant de juifs messianiques qui reconnaissent Jésus comme un véritable prophète et comme le Messie, mais pas comme Dieu. Je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste des juifs messianiques. Hein. Je pense qu'ils doivent le reconnaître comme une version honorable du judaïsme, si vous voulez. Parce qu'on verra la prochaine fois ce qui ne passe pas pour les juifs. C'est l'aspect que j'ai un peu laissé dans l'ombre, c'est l'aspect transcendant. C'est la prétention du Christ à être Dieu. Le reste, à la limite, ça on pourrait faire passer la pilule, mais là, ça bloque. Quoi. Oui, Pierre. Ah, une question de Pierre.
Est-ce que la vision communautaire du Messie d'Israël peut trouver un écho dans la communion des saints et le fait que le Christ est la tête?
Oui, oui, mais ça va, si vous voulez. C'est vrai que le Messie est une personne, ça se voit qu'on ne peut pas sauver le sens de l'Écriture si on dit autre chose. Mais c'est vrai aussi que les expressions employées pour le Messie sont employées pour le peuple de Dieu. Pour le roi d'abord, et ensuite pour le peuple de Dieu, et donc pour l'Israël de Dieu qui est l'Église. C'est vrai que les promesses, par exemple le royaume messianique, si vous voulez, enfin, c'est une grande idée du cardinal Journet aussi, c'est que le royaume messianique c'est l'Église, pris dans un sens spirituel. Donc ça va. Mais il y a quand même une personne, quoi. Mais c'est très mystérieux, vous voyez, parce que c'est vrai aussi que je crois que dans l'apostolat, il faut faire très attention où en sont les gens. Parce que si vous il faut, quand vous argumentez en apologétique, quand vous tâchez de donner des raisons, tâchez de voir d'abord la base commune que vous avez avec l'interlocuteur, quoi. Et puis ses difficultés particulières. Et trouver la voie qui va le plus lui ouvrir le cœur vers un aspect du mystère qu'ils ne soupçonnent pas. Parce que je crois que souvent, ce qui empêche les gens d'aller au christianisme, c'est pas tellement ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils connaissent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils se font des idées et il y a des richesses qu'ils ignorent et ils sont très surpris quand on leur dit que ces richesses se trouvent.
À propos de la prophétie,
Joseph,
il y a quelque chose de mystérieux. Vous avez dit que le prophète ne sait pas ce qu'il dit.
Pas toujours.
Est-ce que vous avez un exemple de quelque chose de similaire? Moi j'en ai un, mais dans les temps modernes.
Dites alors.
Sachant que le temps de la prophétie est terminé, c'est quelque chose qui est analogique à ça.
Oui, oui.
Par exemple, quand chez les saints, les visions, les messages qu'ils ont ne leur sont pas du tout clairs. Dans
oui,
certains
oui,
cas.
C'est possible, oui.
Hein. Vous n'avez pas un exemple de... Par
c'est
exemple,
pas,
par exemple, à Fatima ou...
Ah oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a, par exemple, bon, si vous prenez le troisième secret de Fatima, là, qui a été publié en l'an 2000, il y a une description. Alors, moi, j'ai ma petite interprétation perso. Bon. Et d'autres, mais est-ce que Lucide Fatima a compris le sens... C'est un symbole, évidemment. On voit le pape qui passe au travers d'une ville ravagée avec des gens qui sont morts. Et il prie pour les gens qui sont là. Donc, à mon avis, ce n'est pas des martyrs, c'est il prie pour eux. Hein. C'est pour ça que mon impression, pas tout à fait, c'est du Vatican, on a publié un truc en disant il prie pour les martyrs. Et moi, je crois que c'est une chose qui concerne encore l'avenir. C'est-à-dire, à mon avis, pour moi, cette description, si vous voulez, dans mon optimisme délirant, c'est un peu la description de l'Occident actuel, quoi. Qui a apostasié du christianisme. Et donc, si vous voulez, les âmes sont mortes. Et même temporellement, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que depuis 50 ans, c'est vrai qu'on assiste à une apostasie assez impressionnante par rapport aux sources chrétiennes, je dirais, l'impact du christianisme dans la politique, dans la morale, etc. Et donc, l'Église est vraiment quand même, en Occident, réduite à... récemment, on a encore publié un sondage, je crois, 4,5% de Français qui vont à la messe le dimanche, et là-dessus, il y en a 62% qui pensent que toutes les religions se valent, quoi. Alors, on a dit, cette troisième vision de Fatima concerne le passé. Moi, je ne suis pas certain, quoi. Parce qu'est impérieux, c'est que le pape est tué arrivé au haut de la colline. Alors j'espère que je me trompe. Parce que, voilà. Mais il est suivi par des religieux, par des. Et c'est vrai, non, Joseph a raison de dire qu'il y a des. Actuellement encore, mais là ils ont un don de charisme de prophétie, hein, privé, dans lequel ils voient des choses qui communiquent mais qui ne peuvent pas expliquer.
Voilà. Par exemple, il y a une sainte. Enfin, elle n'est pas encore déclarée sainte, mais elle le sera. Mais il y a eu des révélations sur la Seconde Guerre mondiale, le carnage de la Seconde Guerre mondiale, du monde en feu et en sang, alors qu'en 1920. Et en fait, elle voyait des hommes en vert en France, dominant la France, etc. Alors que, à cette époque-là, 1920 ou 1919, les uniformes de la Wehrmacht n'étaient pas encore verts. Et elle voyait des choses comme ça. Et elle-même ne s'expliquait pas, elle ne comprenait pas dans ses rêves ce qu'elle
avait. Alors, pour rejoindre ce qu'il dit, oui, je crois que je vois à qui vous faites allusion. En fait, il faut faire très attention que ce qui est important, parce qu'il y a un caractère un peu croustillant, évidemment, dans les choses un peu. Ce qui est important, c'est la relation de la prophétie ou du miracle avec la doctrine. Ou avec l'action. Et donc ce qui compte, c'est de savoir quel impact ça va avoir sur l'action. Et c'est pour ça que dans la quête canonique qu'on fait pour savoir si c'est vrai ou pas, on regarde tout de suite l'influence que ça a sur la morale du voyant et sur l'entourage. Et s'il y a un message pour redresser les mœurs Fatima, ça lui a un message positif ou lourd. Oui, c'est très important parce qu'il faut ajouter, vous voyez, que Dieu ne se fait pas des choses pour faire des tours, pour montrer qu'il est fort. Ça. En principe, en métaphysique, on sait que Dieu est puissant. Quoi. Mais s'il intervient, c'est pour nous guider. Quoi. Donc c'est très important. Donc si jamais vous avez une vision privée ou une prophétie, vérifiez quel impact ça a dans votre vie. Quoi. Si vous devenez très orgueilleux, que vous n'allez plus à la messe et tout, vous pouvez vous dire que ça a des chances d'être le démon. Quoi. Mais... Non mais c'est intéressant, ces trucs de prophétie. Il y a des trucs... Non mais il y en a, il y a peut-être aussi des locutions angéliques. Hein. Moi je pense qu'il y a plus de chrétiens qu'on pense qui entendent des trucs. Qui parlent un peu avec l'orange, mais ils ne le savent pas toujours. Quoi. Enfin moi je le pense. Hein. Mais faire attention à ne pas tomber dans l'illusion. Question de Charles-Henri, notre fondateur.
Justement à propos du démon et particulièrement des anges, vous avez dit donc qu'ils ne lisaient pas dans nos pensées. Or on peut s'adresser notamment à son ange gardien. On sait que le diable peut nous tenter. Il peut nous tenter sur des points faibles.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'il voit s'il ne voit pas nos pensées?
Le diable, si vous voulez, il est comme une femme. Ce que dit Saint-Ignace. Il est intuitif, quoi. C'est qu'il vous voit parce qu'il a. Dieu lui infuse des tas d'idées. Le diable fonctionne avec des idées infuses comme les anges. Bon. Il a tout ce qui est nécessaire à sa mission, plus ou moins sympathique. Et donc, il voit la bouille que vous faites, si vous voulez, et il a aussi des données, si vous voulez. Hein. Et donc, il intègre tout ça dans son logiciel qui est très puissant, et il se dit, tiens, tel que, vous voyez, il a l'intuition de certaines choses. Donc, il se dit, tiens, je vais le tenter de ce côté-là, parce que, bon, il est découragé, ou il pense à... Voilà. Mais il ne rentre pas dans le secret de votre cœur. Si vous voulez, il remonte des signes extérieurs à votre pensée intérieure. Enfin, vous avez des gens... Aussi, dans l'amour, vous avez une sorte de divination. Si on devine intuitivement bon, quelle est la pensée ou quel est le sujet vers lequel tourne la pensée de la personne. Donc le diable, lui, qui est très intelligent, par les signes extérieurs, il devine mieux et donc il va nous tenter dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est pas qu'il rentre dans le cœur. Parce que ça, c'est très décourageant de penser que le diable peut rentrer dans mon cœur. Donc il va mieux supposer ce que vous êtes en train de penser, mais il peut se tromper, grâce à Dieu.
Et si on s'adresse par la pensée à un ange gardien,
Alors, dès que vous adressez à lui, là, c'est comme les anges quand ils s'ouvrent le cœur. Dès que vous adressez à l'ange, toi qui l'as informé. Ou le démon, vous pouvez lui dire, bon, bah, continue ton boulot, tu me gagnes des mérites et toi tu vas en perdre. Quoi. Et donc, on peut lui parler, si vous voulez, mais si vous ne lui parlez pas, il ne va pas deviner ce qu'il y a dans votre cœur.
À propos des. Vous disiez tout à l'heure les bénédictions sur le peuple juif. Est-ce que le fait que Dieu ait dit au début que le peuple juif était un peuple élu, est-ce que du coup ce qu'il a dit reste
oui.
pour tout le temps?
Ça, c'est dans Saint Paul. Hein. Le peuple juif est un peuple élu parce qu'il est le groupe dans lequel Dieu va s'incarner. Et comme les promesses de Dieu sont sans repentance, bien que beaucoup n'aient pas cru, beaucoup, mais le christianisme vient de tous les juifs qui sont convertis, tous les apôtres étaient juifs. Le reste se convertira à la fin des temps. Et il y a une bénédiction qui reste un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de capacité ou d'actuation messianique ou d'agitation messianique pour le bien et souvent pour le mal, qui semble marquer ce peuple. Et c'est comme un peuple un peu extraordinaire, puisque c'est un des seuls qui, au bout de, on arrive à le retrouver à peu près, qui se maintient, etc. Et en tout cas, d'après la pensée des pères de l'Église, interprétant saint Paul, et je crois le sens oblique du texte, si vous voulez, massivement il reviendra. Donc il garde cette bénédiction, mais c'est comme l'aristocratie, c'est pas un orgueil, c'est des devoirs. Mais c'est pas, il ne doit pas s'en enorgueillir, il a plus de devoirs parce qu'il a plus de bénédictions. Mais c'est un peu inextricable, hein, parce que quand on voit un Père Saint actuellement, on se dit vraiment, on ne voit pas comment ils peuvent en sortir. Hein. D'autres questions ? Oui.
Dans les caractéristiques révélées du Messie, il y a le roi,
oui,
le serviteur souffrant, et en troisième, c'est la transcendance divine. Pourquoi vous avez mis fils d'homme là-dedans ?
Ah, et pourquoi dans l'évangile, on reçoit fois dans les miracles.
Ah, d'accord.
Fils d'homme, c'est parce qu'en fait, le fils d'homme, c'est la vision du chapitre 9 de Daniel, où le prophète voit arriver sur les nuées un fils d'homme. Alors, fils d'homme, c'est quelqu'un de faible et tout, parce que fils d'eux, ça veut dire bien, vous connaissez son extraction, et Jésus lui dira le fils de l'homme, pour montrer qu'il est vraiment le fils d'Adam, qui réalise parfaitement le second Adam. Donc, il y a une réalisation de cette image du fils d'homme de Daniel. Mais le fils d'homme, ce qui est particulier, c'est qu'il vient sur les nuées dessus. Et quand il y a les nuées, c'est Dieu. Donc, il vient de Dieu. Et donc, les Juifs étaient très embêtés avec cette prophétie, ils ne savaient pas comment l'interpréter. Et Jésus se l'appliquera lui-même en se faisant appeler le fils de l'homme, et puis devant le grand prêtre, en la combinant avec le psaume 109, il donnera un sens parfaitement personnel de la prophétie qui sera interprété par le grand prêtre comme une affirmation de divinité. Alors, c'est assez paradoxal parce que Jésus revendique qu'il est son origine divine en disant je suis le fils d'homme de Daniel. Et c'est vrai qu'il a fait les choses de façon un peu voilée, quoi. C'est un peu surprenant parce que quelquefois on entend des objections, pourquoi le Christ n'a pas dit explicitement et puis commencer à réciter le dôme de Chalcédoine, par exemple. Et le concile de Chalcédoine, il a préparé les choses en tenant compte de la façon dont les sémites pensaient, dont le peuple était. Et puis aussi, c'est pour permettre aux gens de monter, quoi. Parce que c'est déjà assez énorme. L'accomplissement des promesses messianiques dans un royaume rédempteur avec la souffrance et un royaume spirituel universel est déjà quelque chose d'énorme. Et en plus, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, c'est que ce serviteur souffrant, c'est Dieu. Donc il faut que les choses soient préparées. Et c'est mieux parce que ça laisse aux gens le temps de se l'approprier. Ouais. Le christianisme, c'est une religion qui vient, mais en même temps on se l'approprie. C'est qu'on rentre dedans et on est touché. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça touchant que Dieu s'est employé 12 personnes pour répandre sa vérité, alors qu'il aurait suffi qu'il fasse un flash dans la tête de tout le monde. Selon le souhait de quelqu'un, il y a 3 cafés catés ici. Ou il y a 12 cafés catés. Pourquoi Dieu a pas fait un flash dans la tête de tout le monde d'un seul coup ? Voilà, mais il n'a pas fait. Il connaît mieux que nous. Mais donc c'est vrai que c'est paradoxal comme appellation. Oui.